Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 9 juin de 18 à 21h, en différé jeudi 10, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien en dépit d'une température claviculaire.
C'est comme ça qu'on dit, non ? Oui, tout à fait.
Bien. Alors, nous avons un programme chargé. Non, pas très chargé d'ailleurs, mais j'espère intéressant. Je vais y recevoir Maître Philibert Lepi, qui est le fondateur et animateur, cofondateur.
Secrétaire général.
Bon, c'est la place sérieuse. Président, ça n'a aucun sens. C'est le secrétaire général qui compte. Ça y est, je viens de vous faire un ami, là, je fais ça.
Oui, le président va être content.
Oui, c'est ça. Donc, qui est avocat, comme son titre l'indique, et qui est donc le secrétaire général de l'Association pour la défense des victimes de violences, de discrimination et de spoliation. Et puis, nous recevrons le docteur Willem, médecin, président de l'Association des médecins aux pieds nus, avec un Z, pour son livre « Au diable, la vieillesse ».
Ah, bravo.
Pareil que la vieillesse, c'est un naufrage.
Ah, oh, c'est une catastrophe.
Hein, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, oh, c'est l'horreur totale.
Et qu'est-ce que vous en savez?
Bah, je suis en plein dedans, alors je souffre.
Oh, bon, les femmes ne sont jamais vieilles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ça n'existe pas. Et nous recevons le docteur Dor. Bonsoir, docteur.
Bonsoir.
Est-ce que vous êtes vieux, vous?
Vieux, je ne sais pas.
Non, je ne sais pas. Hein.
Mais enfin, il y a toujours le nom de Démitis. Moi, je trouve ça très beau.
Ah bah oui, mais il n'y a pas d'urgence.
Il n'y a pas d'urgence. Non, mais on peut réciter même enfant.
Ah bah oui. Enfin, je crois pas que vous soyez vieux avec votre visage. Vous avez un visage de bambin. De bambin malicieux, voilà. Enfin. Et dans la deuxième partie, nous recevrons des jeunes du mouvement identitaire. Alors, le mouvement identitaire, ben c'est comme son nom l'indique, un mouvement qui est attaché à l'identité française.
Qui la revendique.
Mais avant, Cécilia Dem recevra une jardinière. D'abord, le métier est merveilleux. Qui a un nom qu'on n'ose pas imaginer, qu'on n'ose pas rêver pour une jardinière. Elle s'appelle Catherine de la Source.
Oh,
c'est joli, hein?
C'est rafraîchissant.
Voilà, et par ce temps-là, ça nous fera du bien. Alors, le mouvement identitaire, dont se voit donc Guillaume VIII, Odile Bonivard et Marie-Céline et Christophe qui sont des jeunes militants identitaires. Et je recevrai également Nicolas Bay, qui est tête de liste MNR pour les élections européennes. Parce qu'on dit toujours que je reçois que les gens du Front National, ben, je change, je me lance, je vais recevoir une tête de liste MNR. Une des 28 listes dont l'affrontement fait que ces élections sont si passionnantes.
On a 28 listes dans la région parisienne, moi j'ai encore
21, je crois, à Paris, et puis 28, je sais plus où. Mais non, c'est bien.
Non, je crois que c'est nous qui battons.
Ah bon, c'est nous. C'est formidable, vous comprenez, de la démocratie, je marche à fond la caisse.
On a le choix, au moins.
28 listes. Si ça serait parti normalement, ils ne peuvent pas avoir un seul élu.
Ah, oui.
Forcément, parce que 28, ça fait donc même pas, ça fait même pas 3%. Si 3 fois 8, 24, non, même, oui, un peu plus de 3%. Mettons 4% par liste.
On est alléché.
On peut avoir un élu, c'est 5.
Alléché, parce que c'est à 3% qu'on peut être remboursé.
Ah, il y a des frais qu'à prendre, alors c'est bon. Enfin, à reprendre. Bien, alors avant qu'il nous coupe l'électricité, je voudrais quand même vous donner lecture d'un document que je viens de recevoir qui me paraît tout à fait intéressant. Vous savez qu'en ce moment, il y a un grand débat sur la privatisation de l'EDF. Ce que je trouve d'ailleurs incroyable, parce que, entre nous, pour une fois, je vais être d'accord avec la CGT, mais l'EDF a été, c'est le fruit du travail de générations de Français, qui, par leurs impôts, par leur travail, et par leur consommation, ont construit un réseau extraordinaire, des centrales atomiques qui sont formidables. Et voilà que on a décidé de privatiser tout ça. Alors, d'un seul coup, on a des chiens coiffés qui disent bah tiens, on va privatiser, on va vendre des bijoux de famille.
Mais non, c'est pas de la privatisation,
ouais,
c'est
d'accord,
ils le jurent, la
oui,
main
oui,
sur
bien
le cœur.
Ah bah alors s'ils le disent, ça, alors ça il serait beau voir qu'on les traite de menteurs. Et la CGT, naturellement, a rué dans les brancards en faisant une chose qui a soulevé des torrents de protestation, ils se sont mis en grève. C'est tout à fait incroyable. Alors, la CGT, la SNCF, quand les cheminots se mettent en grève, ils arrêtent les trains. Et tout le monde trouve ça normal. La RATP, on arrête les métros. Tout le monde trouve ça normal. Les journalistes, les journaux sortent pas. Et tout le monde trouve ça normal. Mais l'électricité, explique qu'ils fassent, ils coupent l'électricité. Et alors là, c'est le scandale du siècle. Comment osez-vous couper l'électricité? Ben oui. Les hommes ont vécu pendant des millénaires sans électricité, mais maintenant, quand on coupe l'électricité, on a l'impression que c'est un crime contre l'humanité. Mais quand même, il faut essayer de comprendre pourquoi ils sont aussi enragés à garder leur statut, les gens de l'EDF. Alors il faut d'abord savoir que le comité central, non, je ne sais pas, pas le comité central, le comité des œuvres de l'EDF en quelque sorte, le comité d'entreprise, voilà, le CCRS, ça s'appelle je crois quelque chose comme ça, est financé à hauteur de 1% du chiffre d'affaires de l'EDF, du chiffre d'affaires. Ce qui fait de cette association de travailleurs une des plus puissantes, une des plus riches associations de France. Sur le plan immobilier, ils ont des villages fabuleux, où les gens passent les vacances pour 3 francs 6 sous. Oui. Bon, ça sert peut-être aussi un petit peu à financer le Parti communiste, mais ça, on ne sait pas. Ça, c'est pas exclu totalement.
Il ne faut pas le dire.
Non, il ne faut pas le dire, voilà. C'est parce que c'est pas vrai, il ne faut pas le dire. Et donc, les ouvriers, enfin les employés de l'EDF, alors j'espère qu'ils vont me laisser aller jusqu'au bout de mon explication avant de nous couper le courant, ont un statut particulier que quelqu'un s'est amusé à comparer au secteur privé. Par exemple, en ce qui concerne le régime de travail et le régime de retraite. Pour un travailleur du secteur privé, la durée de cotisation théorique c'est 42 ans. Et la durée de cotisation réelle, c'est 42 ans. Alors, il faut cotiser pendant 42 ans pour toucher sa retraite. Pour les employés de l'EDF, c'est 37 ans et demi théorique, et en réalité 32 ans pour les actifs. Le temps de travail par semaine pour un travailleur du secteur privé, c'est 35 heures. Pour un employé de l'EDF, c'est 32 heures. Mais c'est beaucoup plus fatigant, faut dire, parce qu'il faut lever la tête. Moi, j'ai vu tout à l'heure, il y en a un qui est venu relever mon compteur. Il était obligé de lever la tête. Il est monté à pied au troisième étage, incroyable. Le salaire d'embauche, ben dans le secteur privé, c'est le SMIC, et à l'EDF, c'est le SMIC plus 36%. Ça permet de voir venir. L'EDF, on avance à l'ancienneté, c'est-à-dire que plus vous devenez vieux, même si vous êtes complètement ringard, ben plus vous avez des postes intéressants, tandis que dans le privé, naturellement, il faut faire ses preuves pour. En ce qui concerne les retraites, le régime général du secteur privé est basé sur la moyenne des 25 années, des 25 dernières années de travail. À l'EDF, c'est le dernier salaire plus une bonification de 2 mois par année d'activité. Quand vous avez des gars qui ont travaillé donc 32 ans, 2 mois par année d'activité, ça fait 64 mois de bonification, si je sais compter. C'est pas trop mal quand même. Le régime complémentaire, dans le privé, c'est au prix du point. Les pénalités par année manquante, c'est de 5% sur le secteur privé. Et 10% du tarif, et 2% sur le secteur, pour l'EDF. Je suis un peu pris des pinceaux parce qu'on me posait une question en même temps que je parlais, ce qui ne simplifie pas l'existence. L'indexation des retraites, c'est l'inflation pour le secteur privé et les salaires des actifs pour le secteur EDF. Les avantages en nature, 0 pour le secteur privé, 10% du tarif d'électricité pour les employés d'EDF. Ils payent 10%, si j'ai bien compris, du prix de l'électricité que vous et moi nous payons. C'est bien, non?
Ils sont des avantages. Hein? Fabuleux.
Alors si en plus ils arrivent à tirer une ligne pour fournir les voisins, et qui vendent à 50%, ils peuvent se faire un peu de beurre. Mais ils le font pas, bien sûr. Mais alors,
c'est vilain. Ça serait mal. Imaginez ça.
L'âge de départ à la retraite, 60 ans dans le privé, 55 pour l'EDF. Le cumul emploi-retraite est interdit au privé et est autorisé pour les anciens de l'EDF. La masse salariale consacrée aux retraites, ça c'est quand même assez spectaculaire, 24,78% pour le secteur privé, 70,52% pour le secteur EDF. Mais c'est pas très étonnant quand on connaît la suite, vous allez voir. La cotisation employeur, 14,78% pour le secteur privé, 62,67% pour le secteur EDF, c'est-à-dire que la cotisation est payée à 62,67% par l'employeur. Alors que dans le privé, c'est simplement 14%. La cotisation de salarié, elle est de 10% pour le secteur privé et de 7,85% pour le public, enfin pour l'EDF. La cotisation, et alors le ratio cotisant-retraité, ça c'est admirable. Vous avez 2 cotisants pour un retraité dans le secteur privé en moyenne. D'ailleurs, à mon avis, ça va durer moins longtemps que les impôts parce que ça ne pourra pas s'éterniser. Mais il y a un travailleur pour un retraité à l'EDF. Voilà. Et alors évidemment, des choses comme ça, on comprend que bon, ils n'ont pas envie qu'on leur supprime ces avantages-là. Hein.
C'est humain.
C'est humain. Mmh. Et d'ailleurs, moi, je suis tout à fait pour la généralisation de ce système-là.
Oui. Hein? On est tous partants.
Vous êtes d'accord?
Oui.
Bon, moi, je serais tranquille. 37 ans et demi, je dois les avoir, donc je peux prendre ma retraite. Un dernier salaire avec bonification de 2 mois, ça ne va pas nous emmener très loin, tout ça. Mais enfin, c'est toujours ça de prix, quoi. C'est un beau métier. Voilà. Donc, jeunes gens, et après, on s'étonne que quand on pose la question aux jeunes gens de savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, 75% ils disent fonctionnaire.
Moi, je peux pas en dire.
Mais pas militaire, attention. Un militaire, très mal. Fonctionnaire, très bien.
Ni militaire, ni policier.
Ni policier. Non, ça c'est mal, ça c'est répressif. Mais les magistrats veulent bien. Alors, il faudrait que tu m'expliques d'ailleurs, parce que en ce moment, je comprends pas très bien comment fonctionne la justice. Par exemple, on vient d'apprendre que Vincent Renoir, qui avait écrit un livre sur l'affaire d'Oradour-sur-Glane, vient d'être condamné. Alors, en appel. En appel, ils ont doublé la peine de prison. 2 ans de prison dont 6 mois ferme pour avoir émis une opinion différente de l'opinion officielle sur la tragédie d'Oradour-sur-Glane. 1 000 euros de dommages et intérêts à chacune des 3 parties civiles, ce qui est très bien pour un garçon qui a 5 enfants. Et confiscation de tous ces dossiers. Alors ça, c'est quand même étonnant, parce que un historien qui travaille, il fait des recherches, il rassemble des dossiers, il arrive à des conclusions qui ne sont pas les conclusions officielles. On lui confisque ses dossiers. Dans un pays où règne la liberté de penser, il faudra qu'on m'explique comment ça fonctionne. Mais on a levé l'interdiction de séjour sur le territoire de la Haute-Vienne, car cet historien qui travaille sur un village de Haute-Vienne, un village martyr de la résistance, n'avait pas le droit d'aller en Haute-Vienne. Toujours dans le cadre de la liberté et de la recherche et de l'expression, bien sûr. Alors tout ça va se régler en cassation, mais je voudrais saluer les gens de France Info qui, une fois de plus, ont réussi un exploit formidable. Ils ont dit qu'il avait été condamné pour contestation du massacre d'Oradour. Alors évidemment, c'est totalement faux. Marquez, sur France Info, c'est pas étonnant qu'ils donnent des fausses informations. Mais c'est pas du tout pour contestation du massacre. Ils contestent pas le massacre de Radour. Tout le monde sait qu'il y a eu un épouvantable massacre à Radour. Ils contestent les conditions. Ils disent ça s'est pas passé comme on le raconte. Moi, j'ai une version, dit-il, différente de celle des autres. Alors on ouvre le débat. Et le débat consiste à lui dire, ferme ta gueule. Voilà. Mais dans le même temps, ça c'est pour... comment dire, je réfléchis, je me donne matière à réflexion sur les conditions d'application de la justice en France. Dans le même temps, il y a un monsieur qui s'appelle Kurt Schechter, qui a 83 ans, qui avait porté plainte contre la SNCF pour avoir transporté ses parents dans les camps nazis. Il dit, mes parents ont été déportés dans des trains de la SNCF. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, je voudrais quand même rappeler qu'il n'y a pas eu un jour de grève à la SNCF, enfin dans les chemins de fer en France pendant l'occupation, de même qu'il n'y a pas eu un jour de grève dans la presse française pendant l'occupation. Les ouvriers du livre se sont jamais mis en grève pendant l'occupation. Il a porté plainte contre la SNCF. Et la Cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui rappelle que le point de départ de la prescription, 30 ans en matière civile, trouve son origine dans la seule manifestation du dommage. Alors ça veut dire que les faits ayant eu lieu il y a plus de 60 ans, on ne peut pas poursuivre la SNCF. Parce que, pour avoir déporté des juifs dans les trains dont elle avait le contrôle. Mais, dans le même temps, enfin, la même justice, sauf erreur de ma part, a condamné M. Maurice Papon sous l'accusation d'avoir fourni en quelque sorte les gens qui montaient dans ces trains, et lui, on lui a dit, il n'y a pas de prescription, c'est un crime contre l'humanité. Alors, je sais bien que c'est un peu compliqué la justice en France et le droit, mais je ne comprends pas bien le système. Ça me paraît bizarre qu'on puisse appliquer la prescription aux complices, parce que la SNCF est complice en quelque sorte, un des complices et pas l'autre, ils sont complices tous les deux, SNCF, Papon, on peut imaginer que tous les deux ont joué leur rôle dans cette affaire. Chacun leur part, si j'ose dire. Eh bien non, il y a un complice pour lequel il y a la prescription et un complice pour lequel il n'y a pas la prescription. Mystère. Mais ce n'est pas le seul mystère qui se pose en ce moment. Vous avez vu cette histoire du gars qui a poignardé un jeune Israélite à Épinay-sur-Seine. Alors, ça a été extraordinaire parce que, d'abord, il faut dire que l'image a été montrée sur la chaîne de télévision qui s'appelle e-Télévision, je crois, c'est ça, qui est une chaîne du câble, où on assiste en direct à l'arrestation du poignardeur. C'est passé ailleurs ?
Je crois que c'est repassé sur la 2.
Ah. Alors, en tout cas, c'est tout à fait intéressant, parce qu'ils sont dans la rue en train de filmer une des victimes de ce poignardeur, et le gars répond à leur question, puis d'un seul coup, on voit son regard qui se fige, et il regarde passer un type, et il dit, c'est lui.
Il est là.
Et il sort son portable pour appeler la police, et le gars est arrêté quelques mètres plus loin. Bon. Mais, c'est pittoresque, si j'ose dire. Mais ce poignardeur, il faut dire présumé, hein, ce présumé poignardeur a présumé blessé, si j'ose dire, ouais, on va dire ça, présumé blessé dans une présumée rue, un jeune de 17 ans de confession israélite, un étudiant en informatique d'origine algérienne, un concierge portugais, un haïtien et un livreur de journaux originaire de Guinée-Bissau. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi l'haïtien ne donne pas la profession. Le portugais est concierge, le guinéen, il est livreur de journaux, l'algérien, il est étudiant en informatique, l'israélite, il est jeune. L'haïtien, on ne sait ni s'il est jeune, ni s'il est vieux, ni s'il est marchand de saucisses ou médecin ou avocat. Vous allez savoir, il y a des avocats ici. On ne sait pas. En tout cas, le lendemain de la première attaque contre le jeune Israël Ifra, il y a eu un communiqué de la présidence de la République, un rassemblement de protestation organisé par la LICRA et SOS Racisme, et ce groupe fort sympathique qui porte un nom magnifique s'appelle Ni pute ni soumise. Comme si d'ailleurs, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je sais ce que j'en pense. Une visite du Premier ministre, un déplacement du ministre de l'Intérieur, M. de Villepin, un éditorial du Monde, intitulé « La France blessée », sans compter naturellement les communiqués du CRIF, de la Fédération protestante de France, de M. Dalil Boubaker, de Connexion informaticien juif de France. Tous ces gens-là se sont précipités pour dénoncer l'horreur de l'agression antisémite qui bouleverse la France, a dit Le Monde dans, en titre de son éditorial. Mais alors, l'Algérien étudiant en informatique, lui, tout le monde s'en fout. Le concierge portugais, on ne lui a même pas donné des étrennes spéciales. Le laïcien dont on ne connaît pas le métier, on ne lui a même pas trouvé un boulot. Et le livreur de journaux originaire de Guinée-Bissau, la seule consolation qu'il a, c'est peut-être de vendre les journaux qui racontent son aventure. Alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que dans cette histoire, il y a 5 victimes. Pourquoi il n'y a qu'une victime qui a droit à ce déchaînement de solidarité? Je comprends très très bien. Mais le message du président de la République, il est extraordinaire. Il dit, il a adressé un message non pas seulement à la victime, mais à l'ensemble de la communauté juive de France, touchée une nouvelle fois par une agression à caractère antisémite, indigne de toutes les valeurs de la France. Il a rappelé que la tolérance est le ciment de notre communauté nationale et que chacun doit s'attacher à défendre et à préserver cette valeur fondamentale de la nation. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour une fois encore, je suis d'accord avec tout le monde ce soir, j'ai décidé. Mais je trouve que Chirac a totalement raison. Mais il faudrait qu'il m'explique pourquoi cette solidarité ne se manifeste pas à l'égard du livreur de journaux haïtien, du concierge guinéen, du portugais marchand d'informatique. Bon, enfin, il faudra qu'on m'explique ça. Je comprends pas comment ça marche leur système.
Non, vous posez un problème très intéressant, Serge Demekech. D'où l'idée de cette association
d'aide aux victimes. Maître Philibert Lepic, pardon.
L'association d'aide aux victimes de violences, de discrimination et de spoliation. Je me suis aperçu pendant mes 10 années d'exercice professionnel que les victimes, en général, étaient quand même ignoré du système judiciaire français. Et vous en avez un cas ici qui est parfaitement systématisé, c'est-à-dire qu'on va faire l'impasse sur certaines victimes au profit d'autres victimes. Donc nous refusons cette logique, je dirais, différenciationniste. Et,
C'est joli,
mais c'est difficile à prononcer.
Ouais.
Et donc nous voulons, dans cette association, aider toutes les victimes. Toutes les victimes de violences, quelles qu'elles soient, violences corporelles, ou morale ou sexuelle, et les victimes de bien évidemment de spoliation et de discrimination. Alors la spoliation, c'est extrêmement simple, c'est le problème qui se passe dans les banlieues lorsqu'on brûle les voitures. Exemple Pontoise, nous avons un cas à Pontoise où 35 voitures ont été brûlées. Alors il faut déjà rappeler que l'incendie volontaire est un crime qui relève de la cour d'assises. Donc les gens qui brûlent des poubelles sont des gens qui doivent passer en cour d'assises. Il n'y a aucune raison qu'on les renvoie devant le tribunal correctionnel.
À ce propos, je vous rappelle qu'il y a quelques jours, l'imam d'une mosquée de la banlieue parisienne a découvert avec horreur le matin en sortant de chez lui que dans son jardin, on avait foutu le feu à sa poubelle. Il a quand même eu droit à un message de solidarité du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur.
Oui. Non, mais
donc la discrimination, elle n'a pas joué là, parce qu'il n'était qu'imam.
Il n'était qu'imam. Mais ça nous éloigne un petit peu.
Oui, non, mais
du problème qui est que en fait, on parle beaucoup des prévenus et on ne parle jamais des victimes, jamais des victimes. Alors que derrière chaque prévenu, il y a une victime. Et c'est ça que nous voulons dénoncer.
Voire plus,
parce que vous parlez d'un prévenu qui a commis avec un vol avec violence. C'est quoi un vol avec violence? Ça veut dire que il a frappé quelqu'un pour lui prendre son portefeuille. C'est-à-dire qu'il y a une victime qui a été sur le carreau, qui va entamer un parcours au sein de notre système judiciaire et qui n'aura pas l'assistance d'un avocat comme le prévenu depuis la garde à vue. Voilà ce que nous voulons dénoncer dans notre association. Et nous voulons donc aider les victimes dans le maquis de la procédure pénale française. Et je peux vous dire que c'est un sacré maquis. Donc je n'ai pas malheureusement le numéro de téléphone du portable de l'association sur moi, mais je le laisserai au secrétariat demain. Et je propose donc à toutes les victimes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, sans aucune discrimination là, de nous appeler. Et nous les aiderons dans leur démarche juridique, nous les aiderons à se constituer partie civile, nous viendrons nos avocats, puisqu'il y a un collectif d'avocats avec moi, ces avocats viendront lors des dépôts de plainte, et nous demanderons systématiquement au parquet qu'on applique les véritables qualifications pénales aux infractions, c'est-à-dire les incendies volontaires devant la cour d'assises. parce que c'est très... Il faut voir que le parquet essaye de minimiser au maximum, je dirais, la gravité des faits. Il y a une procédure qui s'appelle la correctionnalisation qui permet au parquet de faire tomber, je dirais, de la cour d'assises au tribunal correctionnel un certain nombre d'infractions, et je m'en explique tout de suite. Le cas du viol. Le cas du viol, c'est criminel. Si le viol devient une agression sexuelle, ça devient délictuel et vous passez simplement devant le tribunal correctionnel. Bien évidemment, les peines sont moindres. Alors, il faut revenir, je dirais, au code pénal. Les incendies volontaires à la cour d'assises, les vols avec violence, avec des circonstances aggravantes en cour d'assises, et il faut incarcérer tout simplement les délinquants. Parce qu'à partir du moment où vous aurez incarcéré tous les délinquants, eh ben, la délinquance s'arrêtera. Et il faut surtout rouvrir le débat de la peine de mort. Parce que la peine de mort, c'est la clé de voûte du système judiciaire français. Si vous n'avez plus cette sanction suprême, c'est tout le système des peines qui s'effondre. Cette dissuasion maximale, elle doit exister parce que le délinquant est quelqu'un d'intelligent qui fait, je dirais, le rapport entre le risque qu'il va prendre et le bénéfice qu'il retire de l'acte délictuel. À partir du moment où ce bénéfice est plus important que le risque, le délinquant passe à l'action. Donc il faut rétablir une véritable échelle des peines avec une sanction suprême, la peine de mort. D'ailleurs, je rappelle que 50 sénateurs ont déposé un projet de loi au Sénat pour rétablir la peine de mort en matière de terrorisme. Alors nous demandons que la peine de mort soit rétablie pour les assassins de policiers, de gardiens de prison, les agressions sexuelles sur les enfants, avec notamment des actes de barbarie, parce qu'il faut le dire, vous avez des viols avec des actes de barbarie au XXe siècle qui sont commis dans les banlieues.
Mais ça pose quand même un problème, parce que évidemment on peut défendre l'idée de rétablir la peine de mort. Moi j'ai un peu évolué là-dessus, j'étais partisan de le rétablissement pendant longtemps, puis je trouve que maintenant ça fait longtemps que c'est aboli, et ça va être très compliqué à rétablir. Il y a un côté quand même profondément inhumain là-dedans. Non, mais... bon, je viens de lire en plus un formidable bouquin de Jean Kerr qui est les mémoires de d'Obrecht, Monsieur de Paris, et ça fait pas mal réfléchir sur les conditions, même sur le l'aspect humain, je dirais, l'aspect humain, même l'aspect presque spirituel de la peine de mort. Alors, on peut en discuter longtemps, mais c'est pas...
Il faut ouvrir le débat, mon cher Serge Debecq, parce que vous oubliez les victimes, encore une fois.
Non, j'oublie pas du tout les victimes, mais je pense que, si vous voulez, je suis pas contre, simplement je dis j'ai évolué, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont évolué, et qui étaient... Moi, j'étais radicalement pour, et depuis quelques années, je me dis que ça me paraît quand même pas la bonne solution. Ce qui me paraîtrait la bonne solution, ce serait la mise au ban définitive de la société, c'est-à-dire le bagne, tout simplement.
Le bagne, alors oui, c'est la guillotine sèche. Hein. Oui, on appelait ça à l'époque la guillotine sèche.
Et en plus, on s'en ferait. C'est-à-dire que moi, je verrais très bien la construction, la réservation d'une île, grande île, qu'on achèterait à un pays nécessiteux, et on déposerait les gens là-dessus en disant maintenant, vous débrouillez. Hein, voilà, vivez entre vous, puisque vous êtes des fauves, on vous laisse le soin de vous éliminer vous-même. Ça me paraîtrait là à la fois humain, faisant une marque de confiance aux capacités d'initiative de l'être humain, etc. C'est plus intéressant que
de couper en deux. Non, mais de toute façon, Serge de Bégel, ce qu'il faut, c'est faire de la provocation, comme disait le maire de Bègle. Il faut provoquer le débat, et je lance le débat sur la peine de mort. Toutes les opinions sont recevables, oui. Même si je ne partage pas la vôtre.
Mais je ne la connais pas bien, mon opinion, à vrai dire. Voilà, c'est ça le problème. Je ne suis pas bien sûr de ce que je pense sur cette question. Ce que je sais, c'est que ça me révulse un petit peu quand même. L'idée de couper un bonhomme en deux, froidement comme ça, me déplaît. Mais après tout, je comprends très bien que les gens qui ont été victimes de... ou qui ont eu des enfants, ou qui ont été assassinés, ou des parents, ou des proches, eux, trouvent pas ça gênant du tout. Je pense d'ailleurs que si quelqu'un tuait ma femme, ou un de mes fils, ou un de mes petits-fils, ou ma petite-fille, je serais même prêt à le couper en deux moi-même, s'il fallait faire le travail proprement. Donc, après tout, ma réserve, elle est purement intellectuelle. Mais revenons à la question des discriminations. Là, vous allez avoir encore plus de travail, puisque je viens de lire dans Le Monde un article intitulé « La loi qui réprime les propos homophobes et sexistes ». Alors, ça y est, le texte de la loi de 1881... Alors, le texte modifie la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Ça, on voit tout de suite. La première chose, en France, maintenant, tout le temps, c'est d'empêcher que les choses soient dites ou écrites. Après, on essaye de résoudre les problèmes. Mais la première chose, c'est qu'il faut interdire d'en parler. La deuxième chose, pénalise les propos homophobes et sexistes. Et alors tout ça est expliqué au nom de la victimisation des homosexuels. Mais seulement, je me suis fait une réflexion en lisant cet article, je voudrais la soumettre à votre sagacité et à votre talent d'avocat. On va très vite arriver à quelque chose de complètement aberrant. C'est-à-dire que, vous savez que les automobilistes, quand ils sont un peu bloqués dans un embouteillage, ils en viennent assez rapidement à échanger des noms d'oiseaux qui ne sont pas toujours des noms d'oiseaux, qui sont parfois des noms qui feraient référence à des postures de caractère intime. Notamment, il y a un mot qui est souvent utilisé, qu'on traduit dans la presse par ces trois premières lettres, ENC, point de suspension. Alors on en arrive à cette chose-là. Imaginez que moi je suis au volant de mon automobile, il y a un type qui me fait une... je lui fais une queue de poisson, et il me traite de ENC, point de suspension. Alors, au lieu de le sortir et de lui mettre ma main dans la figure, je vais au commissariat, et je dis, voilà, j'ai relevé le numéro d'immatriculation d'un type qui m'a traité de ENC, point de suspension, et je porte plainte contre lui pour propos homophobes et sexistes. Alors, il va y avoir un juge d'instruction qui va être nommé, et qui va me dire, mais monsieur, êtes-vous homosexuel ? Ah non, pas du tout. Ben alors, vous n'êtes pas concerné, c'est pas une injure homophobe. Oui, mais enfin quand même, ça fait allusion à... Ouais, oui, mais c'est pas le cas. C'est pas de l'homophobie. En revanche, le gars qui est vraiment homosexuel et qu'on traite de ça, lui, il porte plainte et il est sûr d'obtenir gain de cause. Parce qu'il dit, je suis homosexuel, il m'a traité de NC pour une suspension. Donc c'est bien à propos homophobe. Alors on en arrive à ce résultat que la justice va être obligée, si j'ose dire, de mettre son nez là où il a rien à faire.
Écoutez, Serge de Becquet,
qu'est-ce que vous pensez?
C'est une question qui est particulièrement difficile. C'est vrai qu'on a un regain de ces lois qui créent des incriminations spéciales. On a l'impression que chaque catégorie de citoyens, je dirais presque chaque communauté, maintenant doit avoir une protection juridique particulière. Alors moi, la question que je me pose, c'est dans cette inflation pénale, que reste-t-il du citoyen, je dirais, lambda, celui qui va simplement être une victime parmi les autres. Parce que celle-ci n'aura pas le bénéfice de lois, je dirais, entre guillemets, d'exception ou spéciale. Ça, c'est exactement le cas de votre Portugais qui va prendre un coup de couteau en banlieue. Alors lui, effectivement, il ne bénéficiera pas de cette protection spéciale loi ad hoc.
Il faut immédiatement faire voter une loi contre les propos lusitanophobes.
C'est une solution.
Et les propos conophobes, alors qu'est-ce qu'on attend, là? Parce que moi, il n'y a pas de raison. Moi qui suis un con, et je l'ai prouvé surabondamment, pourquoi on a le droit de me traiter de con, comme le font certains auditeurs quand ils m'envoient des lettres anonymes, d'ailleurs, et je ne pourrais pas porter plainte? C'est quand même... D'abord, je dirais que si c'est sur le plan sexuel, c'est quand même volontaire. Quelqu'un qui est homosexuel, c'est un choix personnel. Tandis que la connerie, c'est pas un choix personnel, c'est une fatalité. Alors on a le droit de m'insulter au nom d'une fatalité, alors qu'on n'a pas le droit de faire une remarque personnelle à quelqu'un au nom d'un choix personnel. C'est quand même...
Non, mais il faut quand même voir que le gouvernement prend une posture. Une posture qui est celle de nous polariser sur des infractions qui relèvent, je dirais, du domaine non corporel, c'est-à-dire que vous avez des paroles qui sont échangées, et de l'autre côté, vous avez le développement en banlieue de phénomènes extrêmement graves, et je vais en prendre pour l'exemple de cette femme qui a été atteinte d'une balle de 9 mm tirée par un Glock. Alors, il faut savoir qu'un Glock, c'est un pistolet d'assaut qui va être la dotation...
Ah, je croyais que c'était une nouvelle appellation pour dire jeune.
Non, le Glock, c'est le pistolet d'assaut qui va être en dotation dans la gendarmerie et dans la police.
Qui va être en dotation.
D'accord. C'est-à-dire que les policiers et les gendarmes ne l'ont pas encore. Ce délinquant l'avait déjà. Donc, il a tué une femme dans le cadre d'un règlement de compte. Et il a simplement dit qu'il avait fait une grosse bêtise.
Voilà. La presse a dit qu'elle avait été tuée accidentellement.
Accidentellement. Elle a été tuée accidentellement. Alors ça, c'est un mot qui est vraiment extraordinaire. Parce que je voudrais comprendre où est l'accident lorsqu'une personne se promène avec un pistolet d'assaut dans une banlieue. Où est l'accident?
Mais il y a un autre phénomène que j'avais relevé à propos de cette... une autre remarque que j'ai faite à propos de ce drame. C'est que le maire du coin a tout de suite expliqué qu'il ne comprenait pas car c'était un quartier tranquille. Alors je me suis fait la réflexion suivante. En fait, c'est pas l'insécurité qui est génératrice de drame. C'est la sécurité. Parce que si cette femme avait habité un quartier dangereux, malfamé, elle serait pas sortie de chez elle. Et donc elle serait encore vivante. Tandis que là, dans un quartier tranquille, elle sort, elle se fait tuer parce qu'elle s'attend pas à ça. Et donc on voit bien que c'est la sécurité qui est dangereuse. Donc vivons dans l'insécurité, nous aurons moins de problèmes. Ça c'est la vieille histoire de quand on vous dit 20% des accidents de la route sont provoqués par des conducteurs en état d'imprégnation alcoolique. Il faut se dépêcher d'interdire de conduite les 80% qui ne boivent pas. Parce qu'on réduira de 80% les accidents, alors que si on interdit aux alcooliques de boire, on ne réduit que de 20%. Ça me paraît un calcul élémentaire.
Non, c'est un raisonnement qui se tient, mais...
Bon, ben voilà. Mais... Si on avait des gens sérieux au pouvoir, ils raisonneraient comme ça. Voilà, c'est un problème de sémantique générale, ça. Et seulement, ils raisonnent à l'envers. Ils disent, il faut créer la sécurité dans les quartiers. Mais non, parce qu'il y aura toujours des types qui tireront des coups de pistolet, puisqu'on leur permet d'avoir, comme vous dites, des glocks. Avant que les gendarmes y aient accès.
Enfin, ça pose quand même un problème grave parce que, bon, là on parle de cette affaire, de cette femme, mais il faut savoir que ce genre d'incident, oui, déjà j'ai pris le langage politiquement correct. Il faut savoir donc que ces situations sont coutumières pour les policiers. Les policiers ont de plus en plus de mal à faire respecter leur présence dans certains quartiers. On parle de reconquête de territoire. Donc ça veut dire que sur le territoire de la République, la légalité ne s'applique plus. Voilà où il est le véritable problème dans notre société. C'est que vous avez, je ne sais pas combien de quartiers qui ont complètement échappé au contrôle des forces de l'ordre.
Oui, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, l'État, la puissance publique, donne quotidiennement la preuve de son incapacité à appliquer les lois existantes. On est bien d'accord. Et tous les jours, elle prend de nouvelles lois qu'elle ne sera pas plus capable de faire appliquer. La loi sur le voile... Pour 10 ou 15 gamines qui se mettent le voile pour venir à l'école, on a fait une loi. Ce qui veut dire, si je ne me trompe pas, et on verra ça à la prochaine rentrée, que là où il y avait, dans les classes où il y avait 3 gamines avec le voile, à la rentrée, on va en voir arriver 50 avec le voile, qui vont faire le pied de grue devant les écoles en disant nous exigeons d'être intégrés à l'école, d'autant qu'il y a quelques jours, je crois que c'est l'ONU, ou je ne sais quelle organisation internationale, a publié un communiqué pour s'émouvoir de la loi contre le voile, en disant qu'il fallait surtout pas que cette loi permette d'écarter certains enfants de l'accès aux études.
Écoutez Serge, je vais vous donner une petite anecdote. Donc je fréquente très souvent les audiences correctionnelles. À l'audience correctionnelle, vous ne devez porter aucun couvre-chef. Donc les gendarmes font respecter cette interdiction. Si vous arrivez avec une casquette, un melon, un chapeau de forme, un béret basse, on vous demande de l'enlever. Eh bien je peux vous dire que toutes les femmes qui viennent à l'audience publique du tribunal correctionnel, qui sont voilées, donc qui ont un fichu sur la tête, le gendarme, je n'ai vu aucun gendarme qui leur a demandé de se découvrir. Donc tous ces problèmes de loi n'ont aucun sens. Si vous n'avez pas une volonté politique qui s'affirme clairement pour faire respecter l'ordre républicain, vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, ça ne marchera pas. Voilà l'exemple type. Parce que la salle d'audience correctionnelle, c'est le lieu où doivent s'appliquer les lois de la République. Dans ces audiences, les lois de la République ne s'appliquent plus. Donc il est, je dirais, parfaitement normal qu'après, à l'éducation nationale, à l'université, derrière, plus rien ne marche. C'est malheureusement triste. Voilà. Alors je dirais que les magistrats qui ont la police des audiences, ils ont la police des audiences, et ils ne se gênent pas pour confisquer les téléphones portables, ils ne se gênent pas pour faire expulser les perturbateurs. Je n'ai vu aucun magistrat, et ça je le dis, et ça peut être vérifié, aucun magistrat ne demande à une femme voilée d'enlever son voile dans le cadre d'une audience correctionnelle.
Mais est-ce qu'une catholique qui viendrait avec son petit foulard Hermès, une catholique ou une protestante qui viendrait avec son foulard Hermès, on lui fait retirer?
Non, parce que moi, j'ai pas vu de femme qui portait un foulard Hermès dans une audience correctionnelle parce qu'elle l'a enlevé avant d'entrer. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc là aussi, c'est du, je dirais, c'est du vécu, ce que je vous dis. Vous pouvez venir avec moi demain au tribunal correctionnel à Bobigny. vous verrez que la police de l'audience donc n'est plus assurée dans les palais de justice.
Ça doit être intéressant, le tribunal de police de Bobigny.
Ah, le tribunal correctionnel
de Bobigny, ça doit être bien.
Ah, c'est fantastique, non, non. Ouais.
Ouais. C'est pas la peine de prendre l'avion pour partir en vacances.
Quoi. J'y ai été plusieurs fois.
Bah oui, mais vous, c'est normal, vous êtes un multirécidiviste. Est-ce que vous mettez un voile quand vous allez devant le tribunal?
Non, non, non. Mais je me souviens d'un homme, c'est incroyable, c'est la seule fois où j'ai vu ça, un homme qui s'est accusé d'avoir tué son enfant. Sa femme s'appelait Concepcion, enfin sa compagne s'appelait Concepcion, elle était espagnole. Elle s'appelait, c'était un drôle de nom pour, hélas, un avocat. Ouais. Et il venait sans rien, personne ne le savait, il était venu avec nous à Bagnolet, dans une clinique arrêtée, et puis ensuite dans le tribunal. Et alors il a choisi, il était catholique, il s'était confessé, il avait tout dit, mais vous voyez, devant le public, il a voulu dire, s'accuser, et alors on l'a embrassé à la sortie. Il nous a tous sidérés, je trouve que c'est remarquable.
Ah non, le tribunal correctionnel de Bobigny est sidérant. Moi j'ai vu des charges de CRS dans les salles d'audience, j'ai vu les policiers gazés dans les salles d'audience, j'ai vu les magistrats quitter rapidement les salles d'audience, j'ai vu le parquet essayer de faire sa propre police. Il faut voir ce que c'est le tribunal de Bobigny.
Ben, Maud Marin a publié dans son livre, parce qu'elle était là-bas, elle était avocate à Bobigny, elle a raconté...
Pitié pour les victimes.
Dans Pitié pour les victimes, c'est ça. Ouais. Elle raconte comment une juge d'instruction est terrorisée, littéralement terrorisée, par un prévenu qu'elle a en face d'elle et qui lui dit carrément qu'il la menace de mort. Enfin, qui lui dit je vais terroriser.
Moi, j'ai assisté des victimes qui se constituaient donc partie civile devant le tribunal correctionnel de Bobigny. J'ai dû être exfiltré par la brigade anticriminalité qui était là justement pour assurer la police de l'audience. Donc on a été, nous, victimes, obligés de quitter le tribunal correctionnel par la porte de secours sous la protection de la force publique. Ouais. Donc à partir du moment où vous dites ça, tout est possible. Et il faut absolument que les victimes, maintenant, prennent conscience de leur poids politique. Il faut que les gens rejoignent notre association, créent des comités régionaux, départementaux, nous tiennent au courant des affaires, et nous irons dans les tribunaux avec les victimes pour tenir ce genre de discours. Nous allons mettre en place un véritable lobby des victimes, et nous demanderons aux pouvoirs publics, nous mettrons les pouvoirs publics en accusation. Nous allons donc démarrer cette action le plus rapidement possible. Je n'ai pas le numéro de portable, encore une fois, je m'en excuse, et je le donnerai.
On vient de vous l'envoyer. Ah. Voici le numéro de portable de l'Association de défense des victimes, c'est le 06 17 45 31 46.
Voilà, je pense qu'il faut le répéter une autre fois en permettant aux victimes ou à tous les citoyens, parce que tous les citoyens peuvent nous rejoindre, de prendre leur crayon et leur papier et de noter le numéro suivant.
Maintenant, ils ont le crayon, ils ont le papier.
Prenez votre bombe à peinture et vous taguez sur le mur de...
Voilà, ou sur votre main si vous n'avez pas de papier. 06 17 45 31 46.
Voilà, donc vous appelez ce numéro et vous suivez la procédure du répondeur. Vous bénéficierez donc d'une consultation juridique gratuite et anonyme qui vous permettra de vous aiguiller dans le maquis de la procédure. Et ensuite, un membre de l'association viendra personnellement vous voir dans le cadre de votre procédure et nous essaierons au maximum de vous assister dans le cadre procédural.
J'ai une question. Accepteriez-vous d'un auditeur, accepteriez-vous de devenir bourreau?
Alors écoutez, ça c'est une question intéressante parce que là on relance le débat sur la peine de mort et je vais vous donner ma position. Moi je pense que la peine de mort devrait être inscrite dans le code pénal, mais que systématiquement le président de la République devrait gracier tous les condamnés à mort. Donc une peine dissuasive qui ne serait jamais mise en application.
Dans le bouquin d'Obrecht que je viens de lire, enfin le livre que consacré à Obrecht, justement la question du mot bourreau revient, parce que Obrecht était scandalisé qu'on continue à appeler le bourreau. Alors, et c'est pas simplement une question de langage, il disait, ça s'appelle Monsieur, son titre c'est Monsieur l'exécuteur des sentences.
Bien sûr, le bourreau ne faisait qu'exécuter la décision prise par les magistrats qui représentent le peuple français.
Il applique la décision du peuple français, c'est exactement ça. Et alors, il raconte combien il était vraiment scandalisé et blessé par le fait que quand il allait, quand il s'installait dans un appartement, par exemple, les voisins protestaient en disant « on ne veut pas habiter le même immeuble que le bourreau ». Il dit les mêmes qui venaient assister aux exécutions avec gourmandise quand elles se passaient en public ne voulaient pas habiter dans la même rue et, ou dans le même immeuble. Et il y a une hypocrisie formidable. C'est vrai que si on a la peine de mort, il faut quelqu'un pour l'appliquer. Et il n'y a aucune raison, bien au contraire, d'avoir le moindre mépris pour ce type. Moi, je trouve qu'il prend une charge qui est une charge lourde.
Il est un serviteur de l'État, voilà. Comme les magistrats, comme les policiers, comme les militaires, comme les surveillants de l'administration pénitentiaire. C'est un fonctionnaire.
Monsieur Lepi, comment pouvez-vous critiquer la minorité musulmane française alors que vous avez été l'avocat d'un islamiste récemment? Mais je n'ai pas entendu de critique.
J'ai pas critiqué la minorité musulmane de notre pays, que je respecte profondément.
J'ai pas entendu de critique contre la minorité musulmane.
D'ailleurs, je sais de quoi parle cet auditeur. Moi, j'ai été commis par le bâtonnier pour assurer effectivement la défense d'un des premiers Français convertis à l'islam qui est parti en Afghanistan. Donc, depuis 99, j'ai assisté cette personne parce que monsieur le bâtonnier m'avait demandé de le faire.
Mais en plus, il y a quand même, alors ça c'est encore un autre sujet, mais puisque j'ai la chance de vous avoir devant moi, je voudrais votre opinion là-dessus. Je l'advine d'ailleurs. Je trouve absolument incroyable cette espèce de folie, parce que c'est de la folie, qui consiste à faire porter sur l'avocat la faute qu'on impute à son client. Le droit français, l'honneur du droit français, enfin un des honneurs du droit français, c'est de permettre à tout prévenu d'avoir un défenseur. Bon, alors, ça veut pas dire l'avocat n'est pas forcément d'accord. Vergès n'est pas forcément d'accord avec Barbie quand il défend Barbie. Mais il a été agonie d'injures.
Surtout que si on reprend donc ce cas particulier, moi encore une fois, je vais peut-être pas me faire des amis, mais je demande qu'en France, on soit condamné pour des actes qu'on a réalisés et pas pour des actes qu'on aurait pu réaliser. Donc c'est extrêmement simple. Moi, dans mon métier d'avocat, je défends un certain nombre de personnes et je demande une seule chose, qu'on applique le code pénal. Uniquement le code pénal. Le code de procédure pénale, uniquement le code de procédure pénale. C'est tout. Ça ne va pas plus loin.
Bien sûr. Bien sûr. Et quand on reproche à un avocat d'avoir obtenu la mise en liberté de son client à la suite d'une erreur de procédure, ça j'ai entendu ça 100 fois, c'est dégueulasse, il a profité d'une erreur de procédure. Il n'a pas profité, il a tout simplement appliqué une règle. Et il faut savoir que le responsable de ça, c'est le magistrat qui n'a pas fait son boulot et qui a laissé perpétrer l'erreur de procédure.
Si vous parlez du régime des nullités, puisque c'est ça dont vous parlez, il faut savoir que le régime des nullités a été voté par la représentation nationale. Donc l'avocat qui demande une nullité de procédure, il ne fait que exprimer la volonté du peuple français souverain, encore une fois. C'est pas lui qui a inventé le régime des nullités.
C'est ça. Les gens veulent la démocratie, mais sans les effets de la démocratie. C'est extraordinaire, d'ailleurs. Alors, moi, je suis bien d'accord sur le fait que c'est un système aberrant, la démocratie. Mais puisqu'ils ont choisi de vivre dans la démocratie, bah, qu'ils prennent le package, si j'ose dire. On peut pas dire... Ce qui me plaît dans la démocratie, c'est le bavardage. Hein, c'est-à-dire, on dit, oui, on est démocrate, on est bon. Mais dans la réalité, je voudrais qu'on vive dans un régime de pure dictature. Je veux bien du régime de dictature, mais il ne faut pas me vendre la salade de démocratique.
Moi, on me reproche l'incohérence de mon discours. Pas du tout. Encore une fois, en ce qui concerne les victimes, je demande qu'on leur applique le code pénal, uniquement le code pénal, la procédure pénale. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un met le feu à une poubelle, c'est un incendie volontaire. L'incendie volontaire, vous prenez le code pénal, c'est un crime, tout simplement. Un crime, donc la cour d'assises. Quelqu'un qui brûle un feu rouge, le code pénal prévoit que ce n'est pas un crime, donc je ne demande pas qu'on l'envoie aux assises.
Alors, d'autres questions, toujours des questions.
Je pense à propos de la peine de mort, avez-vous fait des demandes précises en ce sens à M. de Villepin? La question est telle quelle.
Non, mais écoutez, sur la peine de mort, je crois que c'était une provocation pour relancer le débat et pour dire que il faut durcir. Non, même pas. Il faut même pas durcir le régime qui existe actuellement. Il faut simplement l'appliquer. C'est tout. Appliquer le code pénal dans tous ces.
Je crois que c'est pas nécessaire de fabriquer de nouvelles lois sans arrêt. Par exemple, pour les homophobes, les homos, il n'y a pas de nécessité de faire une loi spécifique pour les homos. C'est vrai qu'en France, il y a une répression des propos injurieux, diffamatoires, blessants, agressifs, etc. Il n'y a qu'à appliquer ça. Pourquoi spécialement les homos? Pourquoi spécialement les juifs? Pourquoi spécialement les marchands de saucisses ou les fabricants de semelles en caoutchouc sous. Ça n'a aucun sens. Okay. Les citoyens doivent être protégés par la loi, quelle que soit leur religion.
Et puis, excusez-moi, la peine de mort, franchement...
Elle est appliquée 260 000 fois par an.
Elle est réservée aux innocents. Alors là, c'est quand même le comble, n'est-ce pas? On hésite à tuer les coupables. Bon, ça, je comprends encore. Bien sûr, c'est affreux. Mais les innocents, on devrait leur donner. Jamais. Ça ne devrait même pas, je veux dire, entrer
en
discussion.
J'ai plaidé à la cour d'assises pour la famille d'une victime qui avait été assassinée. Voilà, tout simplement. Alors moi, j'ai dit à la cour d'assises, cette personne, cette victime, elle a été condamnée à mort. La condamnation a été rendue exécutoire. C'est terminé. On peut dire tout ce qu'on veut, la peine de mort a été appliquée. Donc maintenant, tout le reste, tout ce qu'on va dire, ça n'a plus aucun sens.
Supprimer la peine de mort, que monsieur les assassins commandent, disait... Je ne sais jamais qui disait ça, mais je trouve le formule très belle.
Un auditeur vous rappelle qu'autrefois, aucune femme ne sortait en cheveux, et elles gardaient leur chapeau à l'audience. Les avocats eux-mêmes ne quittaient leur toque que pour citer un arrêt de la Cour de cassation.
Ah, c'était le temps où
c'était le bon vieux
on savait vivre.
Que pensez-vous de l'instauration d'un secrétariat d'État aux droits des victimes? À quoi cela peut-il servir?
Très bien, le secrétariat d'État aux droits des victimes. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucun budget qui n'a été débloqué. Donc, la femme donc, qui s'occupe de ce secrétariat n'a aucun bureau, pas de personnel, pas d'argent. Donc, encore une fois, on est dans l'hypocrisie la plus totale. Vous avez un secrétariat d'État qui est créé et qui ne sert strictement à rien.
Étant donné ce que foutent en général les secrétaires d'État, les sous-secrétaires d'État, les sous-ministres, tout, c'est pas plus mal de les laisser sans bureau et sans personnel. Au moins, ils ne coûtent pas trop cher.
Monsieur Bekesh devrait se demander quelle peine appliquer à un homme capable de violer un bébé. J'ai lu dans la presse, il y a une dizaine d'années, qu'un prisonnier coûte chaque mois de l'ordre de 400 000 francs que l'économie avec la peine de mort.
Ah oui, je suis d'accord, mais alors l'imam de... Si on parle de finances, là, l'imam de Vénissieux, quelqu'un, vous savez, qui vit avec ses deux femmes et ses 16 enfants, qui a été expulsé en Algérie parce qu'il avait dit qu'il fait que le Coran autorisait de battre sa femme... Lui, il y a eu un calcul qui a été fait. Il coûte en cotisation sociale, enfin en aide sociale diverse, allocation familiale, salaire unique, parents au foyer, etc., etc. À peu près 700 000 francs par an à la collectivité. Donc, si je comprends bien le raisonnement de cet auditeur, il faudrait le couper en deux. non pas les prébendes qu'il reçoit, mais le bonhomme.
Non, mais
enfin, c'est pas une question de fric. J'ai pas dit que j'étais. C'est quand même curieux qu'on puisse jamais parler de ce sujet sans immédiatement que ça devienne une espèce de cas d'affrontement. Évidemment, je ne suis pas partisan du viol des petits-enfants, pas plus d'ailleurs que du viol des vieilles dames. Je trouve qu'un violeur, doit le couper en deux, c'est pas forcément la tête qu'on doit lui couper.
Non. Encore une fois, je crois qu'il faut être extrêmement simple. La place des délinquants, des criminels, c'est en prison.
Voilà.
C'est simple, net et précis. Donc s'il faut construire des prisons, eh bien, construisons des prisons.
Oui, enfin, je trouve mon idée d'île déserte extrêmement intéressante. Elle mérite plus de réflexion. Déserte, oui. Le bagne, on les parachute, on les... Non, mais c'est vrai, c'est une bonne solution. Puis on leur dit, vous rêvez d'une société sans loi, voilà, vous y êtes maintenant, arrangez-vous. Il y a un film, d'ailleurs, qui s'appelait New York 1997, quelque chose comme ça, qui est un peu ça. Donc, c'est une ville qui est réservée aux assassins, aux fauves humains. Et on les met là-dedans, puis ils se débrouillent. Et seuls les plus forts survivent, comme dirait mon camarade Nietzsche.
Une auditrice vous demande, victime d'un juge qui lui a volé de l'argent, peut-elle attaquer ce juge et comment?
Alors là, c'est une procédure qui est...
Bonne chance.
Oui, c'est une bonne chance, oui. Procédure difficile, mais il faut tout tenter dans la vie. Il faut aller jusqu'au bout de ses idées.
Il faut demander à Maître Méry, il connaît la question.
Non, nous, notre association se contente simplement d'aider, je dirais, c'est un propos qui va être mal compris, je dirais, les petites victimes, celles dont on n'entend jamais parler et qui représentent statistiquement entre 3 et 12 millions de Français par an. C'est tout.
C'est pas mal quand même.
On parle toujours des quartiers de non-droit. Est-ce que l'inspecteur des impôts va collecter les impôts là-bas? L'agent EDF va-t-il couper l'électricité aux gens qui ne paient pas? Au risque de provoquer une émeute. Qui paye?
Non, mais c'est pas tant. Les employés de l'EDF qui quand ils vont couper au compteur, enfin quand on leur demande d'aller couper au compteur, ils disent moi j'y vais pas. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais moi j'y vais pas.
Ouais, déjà la police ne peut plus y aller. Je vais très souvent au tribunal correctionnel, je me répète encore une fois, j'ai vu une affaire extrêmement intéressante.
Ça arrive à pas mal d'avocats quand même.
Ouais, ça arrive à pas mal d'avocats. J'ai un banal contrôle de police, donc deux policiers contrôlent une voiture pour un défaut de ceinture de sécurité. dans une banlieue, je ne citerai pas le nom. Il a fallu envoyer 3 compagnies de CRS.
Ouais, c'est ça.
Voilà, tout simplement, c'est tout. Il n'y a pas besoin de philosopher. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand les 3 compagnies de CRS seront débordées? On va faire quoi? On va héliporter un bataillon de la Légion étrangère? Et après, jusqu'où va-t-on aller? C'est ça la question.
Comment faire lorsqu'on arrive dans un commissariat après avoir reçu un coup de quelqu'un? Au commissariat, on m'a dit, ne portez pas plainte, faites une main courante.
Oui, non, mais ça c'est une technique qui est utilisée par le ministre de l'Intérieur et que je dénonce aujourd'hui. C'est une technique qui sert à faire baisser le taux de délinquance. Alors, les gens prennent contact avec notre association, nous leur fournirons des formulaires de plainte. Toute personne qui vient dans un commissariat et qui dépose plainte, l'officier de police judiciaire a obligation, c'est le code de procédure pénale, il doit prendre sa plainte. La main courante, c'est une création de la doctrine administrative policière, qui n'a donc aucune existence légale. Si on refuse de prendre votre plainte, vous appelez l'association, un membre de l'association ira avec vous, et moi je me déplacerai aussi, pour qu'on prenne des plaintes.
Le Glock n'est pas un pistolet d'assaut et ne sera pas réglementaire dans la gendarmerie. L'arme qui sera réglementaire est un HKUSP. Bon, on vous fait confiance.
Là, non, il faut faire confiance parce que là, ces questions-là, moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'un Glock, donc je ne veux pas entrer le débat là-dessus. Mais je pense que si cet auditeur prend la
mais
peine
enfin,
de.
Enfin, peu importe.
En tout cas, c'est une arme, quoi.
C'est voilà. Une arme avec un chargeur de 15 coups. Hein,
Glock, ça me rappelle une vieille histoire qu'on racontait quand j'étais petit. Vous savez, comment vous appelez-vous, monsieur Glock? Comment ça s'écrit? J'ai 2 L, etc. Eh bien, vous n'avez pas besoin de prendre l'avion.
Voilà, le Glock, c'est tire une balle de 9 mm. Donc à l'entrée, ça vous fait à peu près. Un cercle d'une soucoupe, et à la sortie, vous avez la taille d'une assiette. C'est-à-dire que vous n'avez aucune chance de survivre à une balle de 9 mm.
Alors, c'est l'auteur Alphonse Karr qui a dit que messieurs les assassins commencent. Et on nous demande quel est l'éditeur de Maude Marin.
Pardon ?
Quel est l'éditeur de Maude Marin ?
Son livre « Pitié pour les victimes », c'était... j'ai oublié. Alors là, ma courte honte... pourtant, on l'a au journal. Il faudra que... je demande à ma petite femme. Il doit nous en rester 2 ou 3. Si vous voulez le commander, vous envoyez un petit mot au Libre Journal, 4 Place France Litz. Je crois qu'il doit nous rester 2 ou 3 exemplaires du livre de Maude, qui est tout à fait intéressant d'ailleurs, où elle raconte une anecdote qui est très drôle. C'est un dur de la banlieue, vraiment un voyou, mais alors de méchant, qui est dans le bureau d'un magistrat instructeur quand les résultats de je ne sais plus quelle élection tombent, et Le Pen avait fait 16%, le Front National avait fait 16%, et le type a blêmi. Il était terrorisé, il a dit, il était affolé, il a dit, mais c'est pas possible. Et là, il a commencé à se faire du souci.
Bah, évidemment, voilà. Évidemment, à partir du moment où le délinquant a peur d'être mis en prison, et sont des gens intelligents, il faut, alors je vais reprendre une vieille expression d'un de nos hommes politiques, il faut terroriser les délinquants, il faut qu'ils aient peur de commettre des actes de délinquance.
Il faut terroriser le terroriste.
Voilà. Le bagne de Cayenne, fermé dans les années 55, fait maintenant l'objet de visites touristiques.
Oui, mais le bagne de Cayenne, c'était justement, c'était un peu trop bien. Moi, je verrais plutôt une île dans les Kerguelen, quelque chose comme ça, un endroit un peu glacé. Moins, pas glacé, mais enfin moins, qui soit occupé à survivre plutôt que rien, qui soit obligé de travailler, de construire des maisons, on leur livrera des sacs de ciment, on parachuterait des briques.
C'est-à-dire, ça fait 30 ans maintenant, et ça, c'est le travail de nos amis socialistes et surtout de l'extrême gauche, qui nous ont inculqué que les délinquants étaient des victimes. Victimes de la société. Alors, moi, je veux bien, mais à partir du moment où on dit ça, toutes les déviances sont légalisées. On peut y aller, franchement. Encore une fois, c'est un mépris, mais total, pour les victimes. Ce sont des gens qui n'ont jamais vu la souffrance et la détresse d'une femme qui était violée, ou d'une famille dont le frère, le père, a été assassiné. Voilà la vérité. C'est ça qu'il faut dire, tout simplement.
Indiquez-nous, s'il vous plaît, le nom et l'adresse de l'association.
Alors, il faut simplement que vous preniez contact avec nous au numéro de téléphone suivant.
Celui qu'on a donné tout à l'heure, 06 17 45 31 46. Et il n'y a pas d'adresse.
Alors, non, il n'y a pas d'adresse parce qu'avec les moyens actuels dont nous disposons, aujourd'hui, et là je lance un appel aux dons, bien évidemment, vous l'avez compris, il faut, nous n'avons pas d'argent en caisse. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc nous avons pu nous payer un portable,
ce qui est déjà
pas mal.
Vous pouvez vous payer un site internet aussi.
Nous allons mettre en place un site internet, mais ça ne coûte pas cher le site internet. Par contre, avoir un local, donc si une personne disposait d'un petit local qu'il voudrait bien mettre à notre disposition, si possible dans Paris, ça nous permettrait d'avoir un ancrage, ça nous permettrait de commencer à travailler, de stocker les dossiers, nos fiches que nous faisons pour chaque dossier, et ça nous permettrait d'avancer. Donc je lance un appel, aussi bien pour les dons que pour un petit local.
Et puis, il y a vous avez une association sœur ou sœur aînée qui s'appelle l'Association nationale des victimes de l'insécurité à Vauvert, au diable Vauvert, par conséquent. Nous apprend un correspondant ou une correspondante.
Tant mieux. Comme
un correspondant.
Il faut que son
Jacques Destre, vice-président de l'association.
Un maximum d'associations de victimes dans toute la France.
Alors, c'est curieux, vous voyez, ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais le monsieur Jacques Destre, vice-président de l'Association nationale des victimes de l'insécurité, me signale ça. Alors, je vais vous montrer dans quel terme il me l'écrit, parce qu'il m'envoie un fax. Monsieur Serge de Bécasse, Radio Courtoisie, émission en cours. Nous vous signalons que le travail d'assistance des victimes de l'insécurité est l'objet d'une association que vous snobez depuis des années. Je n'ai jamais snobé personne. Pourquoi dire des choses tout de suite comme ça? Non, je snobé absolument personne. Je ne vois pas pourquoi j'inviterais Maître Philibert Lepi et pas Monsieur Destre.
D'ailleurs, nous sommes tout à fait.
C'est tout simplement parce qu'ils sont.
Voilà, nous sommes à travailler en coordination avec eux. Il n'y a aucun problème qu'ils se mettent en relation avec nous et nous commencerons un travail ensemble, pour les victimes, contre les délinquants.
D'autres questions, messages, réflexions, remarques.
Un peu à part. Les homos, c'est leur choix. C'est une bêtise de Serge de Bécatch. Être homo n'est pas un choix, c'est une erreur de la nature. Ceux qui le sont le savent, ils le subissent, ils sont nés comme ça. Je suis homo et je sais de quoi je parle, Monsieur Bécatch. Alors.
Ça, je suis totalement incompétent dans ce domaine, donc je m'abstiendrai de toute déclaration, de toute réflexion. Moi, je croyais que c'était un choix personnel. La vie intime est un choix personnel, non?
Pas besoin d'acheter une île. Pendant mon séjour dans la marine, nous avons vérifié une île inhabitée et extrêmement inhospitalière qui est située grosso modo en face de l'équateur et qui appartient à la France.
Oh, bah c'est très bien. Voilà, donnez-nous l'adresse, s'il vous plaît. Je vais envoyer une lettre à Villepin.
C'est plus de Clipperton au large du Mexique, je crois.
Ah bon, Clipperton, c'est joli, Clipperton.
En 1934, je dis pas de bêtises.
Clipperton, c'est un nom qui fait rêver. Ça fait, on dirait quelque chose dans un livre de Raspail. J'aurais presque envie d'y aller à Clipperton. C'est tout?
C'est tout sur le sujet. J'ai d'autres messages, si vous voulez.
Le numéro de téléphone.
06 17 45 31 46.
Alors, nous allons passer à une autre catégorie de victimes, soit les enfants à naître.
Ouais.
Où en êtes-vous, mon cher docteur Dor, de vos
alors,
inépuisables activités?
Enfin, j'ai appris de façon certaine, parce que, enfin, à moi de mettre en balance ce que dit l'INED, mais il y aurait donc, d'après l'INED, en 1994, 2 millions de femmes qui portent un stérilet. 2 millions de femmes en France qui portent un stérilet. Si l'on compte, le stérilet n'est qu'abortif. Hélas, il est présenté comme contraceptif, mais il est abortif. Il n'agit que comme ça. C'est-à-dire que lorsque l'œuf, parce que la fécondation est possible, mais lorsque l'œuf arrive, la place est prise, la muqueuse est enflammée, donc l'anidation n'est pas possible, et l'œuf est éliminé comme un ovule. Et c'est la raison pour laquelle la femme ne s'empêche pas de rien. Elle a ses règles normalement, donc son stérilet la laisse tranquille, etc. Or, si on compte une grossesse par an, par femme, par stérilet en France, ça fait 2 millions d'avortements par an en France, rien qu'avec le stérilet. C'est-à-dire que ce sont des chiffres considérables, puisque les chiffres officiels sont 220 000, 250 000. Il a 10 chiffres estimés, il estime un peu plus, il estime à 260 000, si je ne dis pas de bêtises à peu près, parce que c'est un peu plus que 220 000. Enfin, on y est loin. Alors je dirais, ce sont des chiffres incontrôlables, des chiffres effrayants, où notre population est massacrée, la vie est prise à sa source, n'est-ce pas? C'est une folie généralisée. Je ne parle pas de la pilule prise régulièrement, qui, elle, est assez souvent abortive, n'est-ce pas? La pilule du lendemain, elle aussi, sans qu'on sache exactement comment elle marche. Enfin, je dirais, l'autre jour, j'étais au pèlerinage de Chartres. Entre parenthèses, quelle merveille. J'étais dans le sens Paris-Chartres, mais c'est pareil dans l'autre sens. Mais quand, je vous dirai juste ça, pour vous dire ensuite autre chose, c'est que quand le train est arrivé à... j'ai pris le premier train qui partait de Chartres le lundi après-midi de Pentecôte, et le train a laissé une bonne partie de ses pèlerins à Versailles, un flot important, mais il y en avait quand même beaucoup qui restaient, peut-être 500, 600, 700, je ne sais pas. Ils ont débarqué sur le quai, donc c'était vers 8h, 9h du soir à Montparnasse. Quelqu'un a commencé « Chez nous, soyez reine ». Eh bien, j'ai rarement vu une foule, elle était extrêmement jeune, c'était entre 15 et 25 ans. Tout le monde chantait, tout le monde riait intérieurement, ça se sentait, ça se voyait. C'était une joie inoubliable, inoubliable. La gare retentissait de joie, d'une espèce de joie céleste, bon, je sentis ça comme ça, d'une légèreté et aussi d'espérance. Parce que là, je me suis dit, 500, 600 jeunes, ils ne chantent pas ça pour rien, c'est pas nous qui l'avons lancé. Ça. Et ils chantaient « Chez nous, soyez reines ». Alors là, j'avoue que... Alors, ceci pour dire autre chose, c'est que... Alors là, j'étais aussi un peu triste du pèlerinage, c'est qu'on n'a pas dit un mot de tous ces petits morts. Moi, je pense qu'il y a au moins 3000 morts par jour en France, tout compris, je dirais, mais personne ne peut dire exactement si c'est plus, si c'est moins, si c'est 2000 ou 4000, enfin, c'est peut-être cet ordre-là. Personne ne peut, et personne ne le saura jamais, même sur son lit de mort. C'est considérable. Donc, je dirais, ne pas en parler, même dans un pèlerinage de chrétienté, même si c'est pas le sujet, et c'est toujours le sujet, au fond, parce que toucher aux petits, il n'y a pas plus grave, puisque l'évangile est fait pour les petits. Je dirais ça, c'est... Et alors, à un moment, c'est pas pour l'accabler du tout, mais c'est pour dire du degré d'inconscience où nous sommes, même chez les évêques, et il n'est pas plus mauvais que les autres, je pense pas, c'est un évêque auxiliaire. Il disait ceci, il parlait plus que nous sommes en paix. Intérieurement, je lui dis, mais comment peut-on être en paix, puisqu'il n'y a pas... La Seconde Guerre mondiale a été finie en 1945, on le sait bien, donc actuellement, il n'y a pas de guerre, bon, peut-être en Irak, c'est vrai, mais enfin, en France... Mais jamais on a autant tué. Étrange paix où on n'a jamais autant tué. Si c'est de l'ordre de 3000 par jour en France, c'est une extinction de la France. Alors évidemment avec...
C'est plus que Verdun.
Je dirais, on a parlé des morts de la canicule, 15 000 morts, je dirais c'est 15 000 morts de trop, bien entendu. Mais en France, en 5 jours, c'est réparé, je dirais, on arrive au chiffre de la canicule. Mais là, on a même, plus personne ne chiffre ça. N'est-ce pas? Même, je dirais, même chez les tradis.
Oui, mais ce qui est étrange, si vous voulez, c'est que la focalisation du discours sur l'avortement,
oui,
autour du fait lui-même.
Oui, voilà. Mais ne réveille personne.
Ça réveille personne, mais je trouve que ce discours, il monte pas à la racine du mal, parce que si on est dans cette situation-là. C'est pas par plaisir que les femmes se font avorter. C'est parce que elles ont
une
raison personnelle, économique,
mais vous avez raison.
Existentielle, etc. Or, ça, on n'en parle jamais. On ne parle, personne en France, enfin très très peu de gens en France, disent qu'il faut mettre en place une politique de soutien à la natalité. Et ça devient presque obscène de dire ça. Chaque fois que je parle de ça, les gens me regardent, non, mais il est fou ce type. Alors, vous voulez transformer les femmes en lapines, mais pas du tout, c'est pas le problème. D'abord, il y a un problème de maîtrise de sa sexualité, et il y a un problème de soutien à la natalité. C'est deux choses. Il faut bien imaginer que pour beaucoup, beaucoup de jeunes ménages, pour beaucoup de ménages d'ailleurs, un enfant, c'est une catastrophe économique aujourd'hui. Et j'ai entendu récemment que était à l'étude en ce moment dans les cabinets spécialisés du gouvernement, enfin qui préparent les textes de loi pour le gouvernement, un projet qui vise à supprimer les bonifications pour le nombre d'enfants au moment de la retraite. Vous avez entendu ça? Alors, vous savez que si vous avez un enfant, vous avez une bonification de je sais pas combien, temps, et puis ça va jusqu'à, je crois que c'est 5 enfants et plus, ou 4 enfants et plus. Eh bien, ça va être supprimé, ça. Donc, tout est fait pour dissuader les gens d'avoir des enfants, pour les empêcher d'avoir des enfants. Les écoles sont surpeuplées. On nous parle de chômage à longueur de journée. On nous dit qu'il n'y a pas de travail. On nous explique qu'on vit dans une insécurité totale. On nous explique que la pollution va tuer la population dans les 10 ans à venir. Donc on crée un monde de terreur, un monde d'angoisse qui évidemment ne donne pas envie aux gens d'avoir des enfants. Et puis là-dessus, on leur crée des conditions économiques insupportables. Et troisièmement, on leur dit, mais alors maintenant, si vous voulez vous accoupler autant que vous voulez, ça n'a aucune espèce d'importance, parce que autant d'enfants vous aurez, autant d'enfants on tuera. Donc ne vous faites pas de soucis. Comment voulez-vous que les gens qui sont soumis à ce matraquage et dont la seule éducation consiste à regarder la télévision, la ferme,
mais, monsieur Dekesh, là,
vous résiste à ça.
Vous illustrez tout simplement la culture de mort. La culture de mort, elle est satanique.
Je crois qu'appelons
chat un chat, n'est-ce pas ? C'est une subversion, c'est une subversion des consciences, n'est-ce pas ? Moi, je dis que quand on se tait sur l'avortement, eh bien, on tue l'enfant une deuxième fois. On le tue dans le sein de sa mère, et ensuite, bien pire, on le tue dans les consciences. Et ça, il n'y a pas pire. Eh bien, l'enfant actuellement est tué dans les consciences, et ça, c'est voulu. Ça, le seul veut être coagulat des francs-maçons. C'est le ni Dieu ni maître La culture de mort est proprement satanique. Et d'ailleurs, pour les histoires de Domour, c'est pareil, n'est-ce pas ? On donne un droit au meurtre, et maintenant on donne un droit au vice, n'est-ce pas ? Puisque le Satan... Satan, c'est le singe de Dieu. Vous savez que quand vous êtes 18e degré à la Chevalier Rose-Croix au Grand Orient, eh bien vous êtes initié un jeudi saint, vous rompez le pain, vous buvez le vin, c'est un jeudi saint. Mariage maintenant pour les homosexuels, n'est-ce pas ? Ils veulent singer le mariage... D'une chose sainte, ils font une chose criminelle, abominable, n'est-ce pas ? Le mariage des homosexuels, un mariage contre la nature, c'est Sodome et Gomorre, n'est-ce pas ? Enfin, que Dieu les garde, bien entendu. Je ne juge personne, mais je juge la chose, c'est intenable. Tout ça, c'est proprement satanique. Et nous sommes embrigadés là-dedans, il n'y a pas d'autre raison, n'est-ce pas ? Je pense que nous sommes en plein là-dedans. Alors, ceci pour vous dire que je crois, si je suis bien informé, qu'à 5h du matin, ou vers 5h du matin, ce matin, donc, au Sénat, ils ont fait passer cette loi de bioéthique qui a été... je crois entamé par Madame Guigou, ou alors on peut manipuler l'embryon, ou on peut faire le bébé médicament, élever des œufs humains pour des médicaments. On continue les comme les embryons surnuméraires, c'est-à-dire que n'est-ce pas, on fait proliférer on demande à la femme de donner beaucoup d'ovules pour ensuite les féconder in vitro. On en prend en supplément pour ensuite les réimplanter. En fait, ils sont rares, enfin pas toujours réimplantés, rarement même. Et puis ensuite, donc ce sont des embryons surnuméraires. Et puis alors ensuite le mensonge, n'est-ce pas, qui consiste à dire que après tout, s'il y a un projet parental à ce moment-là, peut-être on peut les réimplanter, mais s'il n'y a pas de projet parental, ben ceux-là, ils sont pour la recherche.
On voit bien qu'on est dans un monde de fous.
C'est un monde de fous. De menteurs et d'assassins, je dirais.
J'écoutais une histoire extraordinaire. Il y a un jeune homme quand il avait 20 ans, a subi une intervention radiologique très lourde, et on lui avait donc prélevé de la semence en lui disant, pour le cas où vous deviendriez stérile par la suite, que vous puissiez avoir quand même des enfants. Bon, donc c'est prévu par la loi, etc. Et après, ça se fait par le procédé classique d'insémination. Et voilà que ce garçon, 20 ans après, se dit, effectivement, il est stérile et il voudrait avoir des enfants. Et donc, il demande qu'on sorte le prélèvement qui a été fait et que on fasse ce qui avait été prévu. Et alors d'un seul coup, ça devient un grand sujet de réflexion éthique. Est-ce que 20 ans après, on peut ? Si on peut 6 mois après, pourquoi pas 20 ans ? À quel moment on peut plus ? 6 mois, 1 an, 1 an et 1 jour, 12 ans, 10 ans, enfin, ça n'a aucun sens. Docteur Willem, bonsoir.
Bonsoir.
Ça n'a aucun sens. On sent qu'on est dans un système qui fonctionne absolument n'importe comment, en dépit du bon sens. Mais c'est un peu effrayant, tout ça.
Moi, je pense que nous avons perdu et la raison et la foi. Et peut-être d'ailleurs d'abord la foi et ensuite la raison. Nous sommes en plein subjectivisme. La vérité, c'est, n'est-ce pas ? Elle n'existe pas, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, alors, là, on est en plein subjectivisme.
Heureusement que vous êtes là pour brandir l'étendard de la résistance.
Alors nous manifestons,
comme
toujours.
Manif.
Oui, nous sommes, au fond, nous avons, pris pour technique la prière publique, mais un peu comme une prière harcelante.
Comment d'autres prières ?
Vous savez qu'au fond, Dieu ne demande pas mieux que d'être harcelé. Et je crois que même il désire qu'on le fasse, non pas pour nous avilir, c'est tout le contraire, mais pour qu'on pense à lui. Ça, je pense que c'est ça. Et dire, nous n'avons pas du tout d'autre pensée que celle-là, que de l'aimer et de le servir. Et alors, je vous signale qu'il y a une contre-manif qui est prévue. Je crois que c'est la CNT, c'est habituellement la CNT. Mais dites-vous aussi qu'il y a aussi Amnesty International, ce qui est assez curieux. Amnesty International, internationale contre nous. Alors là, c'est assez étonnant. Je crois
non,
que le.
C'est étonnant du
tout. Enfin, pas à Paris. À Paris, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est arrivé à Aix-en-Provence. Enfin, je ne dis pas de bêtises, je crois que celui qui a fondé Amnesty International a eu l'ordre Lénine, je crois. Hein, que le prix Lénine, un Irlandais.
Si vous me permettez, mon cher docteur, de vous parler latin, je dirais que les anciens, dans leur grande sagesse, avait déjà pris en considération le problème de l'avortement, puisqu'il est le vieux proverbe romain, infans conceptus, pronatus, oui,
avec voilà.
Une fois qu'on a dit tout ça,
mais parfaitement.
Je crois qu'il n'y a plus rien à dire.
Mais parfaitement. Mais ça, on ne le sait plus.
Alors, cher docteur,
alors, voilà,
la
manifestation. Donc, nous, ça va être la 9e fois que nous manifestons devant le planning. On a manifesté 2 fois au siège national Saint-Irénée. Là, nous, pour la 7e fois, nous allons, 7 plus 2, nous allons manifester à Rue Vivienne, donc 10. Pas loin du 10 Rue Vivienne, qui est le siège parisien du planning familial. Et bon, alors j'ai souvent dit, mais on peut le répéter, là encore, puisque nous répétons souvent les mêmes choses, puisque l'horreur est toujours là, c'est qu'il n'y a pas d'organisation au monde plus criminelle que le planning familial, puisqu'ils ont tué, je le dis sans... je ne crois pas qu'ils puissent me faire de procès là-dessus, parce que c'est la vérité. Et ils le disent eux-mêmes, il y a plus d'un milliard de morts déjà annoncés en 1997, que l'on me cite un seul organisme qui a tué déjà plus d'un milliard. Quand je dis milliard, c'est certainement très 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 au-dessus. Eh bien, je dirais, c'est une folie. Et comment se fait-il que... Alors là, je vous dirais aussi que non seulement c'est une entreprise de morticole épouvantable, que le monde n'a jamais connue, mais encore c'est la dépravation dans nos écoles, qu'il n'y a pas tellement longtemps, enfin c'était avant l'euro, mais dans le 12e arrondissement, une petite fille très mignonne de 12 ans qui disait avec un joli petit sourire « Oh, donnez-moi un franc pour un préservatif ». Eh bien, je lui dirais, quand on entend ça, je lui dis, mais ma chérie, tu rêves après un enfant. Mais, enfin, voilà, vous voyez, qu'est-ce qu'on apprend dans l'école maintenant? On apprend la dépravation, parce que vous avez la pilule qui vous attend si jamais il y a un problème à l'école même, je ne sais pas, enfin, les préservatifs, tout ça. Je lui dis, nous sommes en pleine folie, nous dépravons nos enfants, nous dépravons, tout ça c'est le planning, hein. je n'invente rien. Qui me disent le contraire s'ils ne font pas, au contraire, ils sont enchantés de dire, je crois qu'ils sont très contents de ce que je dis, enfin, ou que d'autres, parce que je pas grand chose là-dedans, mais je pense qu'ils ne peuvent pas dire le contraire. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de procès.
Donc,
alors, je reviens
à la date,
excusez-moi. Alors, c'est le 12 juin, c'est ça, à 14h30. Venez, alors oui, que je vous donne quelques consignes. Actuellement, il commence à se durcir un peu. La dernière fois, il y avait des œufs lancés assez fort. On a dû laver le banderole, ça c'est pas grave. Venez avec des imperméables. Il y a une contre-manif, ils sont assez agressifs. Alors, bien sûr, de notre côté, il n'y a aucune arme. Nous avons quand même des costauds. Mais rassurez-vous aussi, il y a une police extrêmement bien faite. Non seulement, alors, que soyez prudents à l'arrivée, soyez surtout prudents à la sortie. Nous avons tout ce qu'il faut comme effectifs policiers qui sont très attentifs. Il y a même des policiers, je peux vous dire, dans les couloirs du métro. Donc on ne peut pas vous agresser, ou alors la police est en faute, je dirais. Mais elle ne le sera pas parce qu'ils sont extrêmement vigilants.
Merci docteur.
Merci.
À bientôt.
À vous.
Un auditeur nous donne l'éditeur du livre de Maud Marin, c'est les éditions Fiction.
Non, j'aurais dû le savoir.
Et puis ça, les auditeurs auraient aimé que vous parliez de la cérémonie de Louis XVII. Alors, elle est formulée comme ça. Célébrer, on a beaucoup parlé de la réconciliation entre franco-allemande tous ces jours-ci, mais à quand la réconciliation entre républicains et royalistes? Quel dommage que les autorités françaises n'aient pas assisté à la cérémonie de Louis XVII.
Oui, c'est
et vous,
un...
Qu'en pensez-vous? Bon.
Je ne suis pas certain que ce soit le cœur de Louis XVII, donc voilà. Donc, j'ai pas d'opinion. Je pense que c'est. Je suis plutôt tenté de croire, comme Madame Laure de la Chapelle, qu'il s'agit du cœur du frère aîné Louis Joseph, qui est mort en 1789. Mais bon, je suis pas du tout un spécialiste. J'ai pas de par fantaisie personnelle, si j'ose dire, je serais plutôt survivantiste. J'aime bien l'idée du roi caché, l'idée que Louis XVII a survécu, ça me plaît.
Oui.
Voilà, c'est tout. Autrement, bon, pas de commentaire particulier à faire là-dessus.
Vive Alexandre Dumas.
Oui, c'est ça, je préfère. Oui. Comme de toute façon, on ne se fera jamais. Bon, et comme je suis légitimiste, j'ai mon Louis-Alphonse et son coffre-fort, tout me va bien.
Et puis on vous demandait aussi de parler de Bègle, du mariage homosexuel.
Oh,
mais pas tellement. C'est pas tellement pour du mariage homosexuel, je crois. Ils aimeraient que vous Donc vous parliez du laxisme général du gouvernement.
Non, ce qui me frappe dans l'histoire de Belge, c'est que on a entendu tout le monde, enfin les socialistes et même les autres, dire ouvrons le débat. Mais c'est encore une fois une arnaque. Il n'y a pas de débat. Il ne peut pas y avoir de débat, puisque de toute façon, ouvrir le débat, ça veut dire accepter le mariage homosexuel comme un fait. Une fois que le débat va être ouvert, il y aura ceux qui sont tout à fait pour et ceux qui sont plutôt pour. Mais ceux qui sont radicalement contre, on leur dira « vous êtes des nazis ». Bon, donc il n'y a pas de débat à ouvrir. Tout ça est ridicule. Ma mère fait son travail d'agitateur, il fait de l'agit propre, il a été formé pour ça et il fait très bien son boulot. Et il a en face de lui des lopettes qui gesticulent, qui font des protestations, de, vous allez voir, nous allons nous montrer impitoyables. Et là-dessus, on apprend que l'impitoyable, c'est 5 euros d'amende et un mois de suspension de ses prérogatives de maire. Alors évidemment, il doit être terrorisé, le gars.
Mais Maître Wagner, à l'émission de Maliarakis vendredi dernier, disait qu'il y avait un article du code qui permettait d'accuser de forfaitures.
Mais bien sûr, on peut. Mais bien sûr, mais
donc,
c'est évident.
Et de le condamner en conséquence.
Il est possible de le je trouve plus le mot
inoffensif,
c'est-à-dire de le supprimer ses prérogatives de maire définitivement, de le déposer en quelque sorte. C'est la loi, elle prévoit, mais qui va le faire? Le monsieur Perben, monsieur Villepin, monsieur Raffarin? Alors en même temps qu'ils font une loi qui interdit de dire qu'il y a un chat, d'appeler un chat un chat et de le nommer un fripon, Ils feraient une loi, ils prendraient une sanction contre ma mère qui ne discrimine pas puisqu'il les marie. Enfin, on est dans le délire. Je publie dans le prochain numéro du Libre Journal une petite fantaisie sur les mariages auxquels il faut s'attendre. Parce que bientôt, on va voir arriver deux gars qui vont dire on va se marier. Ah bon, mais comment vous appelez-vous? Dupont et Dupont. Ah bon, vous êtes parents? Oui, on est frères. Vous pouvez pas vous marier. Comment ça, on peut pas se marier? Non, vous pouvez pas vous marier, on parie pas des frères. Alors comment? Donc mais on n'est pas homosexuel du tout. On veut se marier pour des questions fiscales. Donc on est des hétéros, alors vous faites donc il n'y aura pas d'inceste puisqu'on n'aura pas de relation, et vous feriez une discrimination à l'égard des hétéros maintenant. Bon, alors deuxième séance, quatre jeunes arrivent, Michel, Jacques, Élise et Noémie, et on veut se marier. Bon, mais qui veut marier avec qui? Ah non, on veut se marier tous les quatre. C'est-à-dire, oui, moi j'aime bien les trois autres, donc on veut se marier à quatre. Mais non, attendez, un couple dans la tradition, c'est deux personnes. Ah bon, parce que maintenant vous attachez de l'importance à la tradition? Non, un couple, nous on décide qu'un couple c'est quatre, et puis voilà, et il faut nous marier tous les quatre. Et puis la dernière, c'est le type qui arrive, qui dit bonjour, je voudrais me marier, ah bon, et comment vous appelez-vous? Quels sont les noms? Pierre-Paul. Ah, d'accord, vous êtes qui vous? Pierre-Paul. Mais vous êtes Pierre ou Paul? Pierre-Paul. Et avec qui voulez-vous vous marier? Avec moi. Vous pouvez pas m'empêcher de me marier avec moi-même, quand même. Ça m'intéresse, ça fera deux parts dans le foyer. Deux parts fiscales. C'est vrai que c'est intéressant de se marier avec soi-même. Alors pourquoi on ne va pas autoriser les gens à se marier eux-mêmes? Puis après, il y a celui qui va épouser son poisson rouge, sa tondeuse à gazon. On va célébrer les noces de la poule pondeuse et la pendule du salon. Et puis voilà. Comme disait Villemorin, plus personne ne veut se marier, sauf les curés. Et maintenant, il faut ajouter les PD.
Mais vous savez, moi, ce que je crois, c'est que la civilisation telle qu'elle est, elle ne va pas exploser, elle va imploser. C'est-à-dire que comme le communisme n'était pas tenable, il a duré 70 ans, je ne sais pas comment, il est tombé de lui-même. Là, comment une civilisation peut-elle tenir en tuant ses enfants, en Sodome et Gomorre? Elle tient plus. Les bases sont complètement
Il y a longtemps que ce n'est plus une civilisation.
C'est plus une civilisation. C'est l'absence d'une civilisation.
Voilà, merci docteur.
Merci.
Je me tourne vers un autre docteur. On parlait avec le docteur Dor des bébés. Avec vous, on va parler de l'autre bout de la vie, si j'ose dire, puisque vous publiez, docteur Jean-Pierre Willem, un nouvel ouvrage, toujours remarquable, intéressant, original, et qui est intitulé « Au diable la vieillesse ». Vous ne voulez quand même pas envoyer tous les vieillards en enfer, non?
Mais le titre est un petit peu énigmatique, parce que ça commence dès le jeune âge, hein, évidemment, si vous voulez.
Excusez-moi, vous êtes très grand, et donc il faut que vous augmentiez un peu votre micro, ou que vous vous fassiez plus petit, pour que votre bouche coïncide avec le micro.
Voilà, je suis en face. Alors, évidemment, il faut pas avoir la vieillesse, il faut avoir avant la vieillesse. Alors, je voudrais dire d'abord, parler de ce fameux mythe de Faust, tout le monde pense à l'éternité, qui n'existe pas.
Et alors, vous avez le nombre de gens qui sont précipités sur la DHEA. La 15 ans, j'avais dit que c'est une hormone de croissance, oui, tout simplement, qui fait faire les divisions. Comme on a le droit à 70 divisions, vous avez à 70 ans, il vous en reste à peu près très peu. Donc, vous les potentialisez. Donc, de cellules quiescentes qui dorment, vous les, elles deviennent actives. Bon, mais, et après, il n'y a plus rien. C'est la mort. Alors, vous n'avez qu'à voir, par exemple, la DHEA, on est monté à 10 mg. Il y en a qui sont à 100 mg, puis il n'y a plus rien. Hein. Bon, il y a les cheveux qui se sont améliorés, la peau s'est améliorée, la quéquette un peu. Bon, et oui, oui, c'est ce qu'on a noté. Et puis après, il y a
des choses passionnantes.
Mais oui, non, mais c'est ça que les gens voient. Hein. Et donc tout ça pour vous dire que le mythe de Faust n'existe pas. Mais en revanche, on a notre destin entre nos mains. Et moi, je résumerais ce livre, s'il fallait le résumer, sur deux points. Hein. C'est d'abord l'alimentation. Ça, l'alimentation bio, hein, parce que malheureusement, ça coûte cher. Parce que vous savez qu'il y a des pesticides partout. Puis vous voyez les articles qui disent que on change de sexe. On se féminise parce que les pesticides sont des hormones like, c'est-à-dire elles imitent donc le
donc bientôt,
la folliculine.
Pourra, hein. Donc bientôt, vous n'aurez même plus le droit de dire du mal des pesticides.
Mais pour l'instant, moi, ma mission, c'est d'en parler, hein,
oui, mais là...
malgré les retombées. Hein, oui. Ça,
mais avant d'en venir à ce point de vue, je voudrais évoquer un point avec vous. On nous dit très souvent que l'espérance de vie augmente.
Oui.
On vivrait de plus en plus vieux.
Oui, c'est
vous partagez cette...
Ben, c'est vrai, parce que d'abord, on ne meurt plus en bas âge, hein, comme
c'est
avant.
Ça, en moyenne.
La vieillesse est beaucoup plus pénible. Hein, à partir de 50 ans, vous pouvez pas me montrer quelqu'un qui n'a pas perdu des dents, qui est pas obèse, qui a pas
Ne parlons pas de moi, s'il vous plaît.
J'ai de la chance.
Mais ce qu'on dit à partir de 50 ans, quand on se réveille et qu'on a mal nulle part, c'est qu'on est mort.
Oui, ben voilà, voilà, vous avez tout résumé. Vous avez tout résumé, hein. Et alors, vivre dans des conditions pareilles, vous n'avez qu'à voir les gens comment à 75 ans ont du mal à se déambuler, hein. Ils ont tous de l'arthrose, de l'arthrite, etc.
Mais ça, c'est lié à quoi alors?
Ben le fait que justement les métabolismes ne sont pas sains, on mange pas comme il faut, et puis la deuxième version c'est le stress. On ne sait pas gérer le stress qui s'abat partout, hein. J'avais fait un article. Je suis rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Pratique de Santé, et beaucoup de profs de fac sont abonnés. Bizarrement, enfin, c'est leur femme qui est abonnée, et je reçois du courrier pour me dire qu'il était merveilleux, parce que je l'avais intitulé « Le crime parfait ». Vous savez très bien qu'on peut tuer quelqu'un, c'est pas la peine d'envoyer les flics pour vous, hein, le crime parfait, je vais vous le résumer. Vous savez que les stress, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous stimulez donc l'hypophyse qui va sécréter la CTH. La CTH va sécréter la cortisone. La cortisone, c'est une hormone qui éteint le feu, qui est, on dit, anti-inflammatoire. Mais si vous avez des problèmes pendant des années, qu'on vous envoie, par exemple, le fils, qu'on vous envoie n'importe quoi, eh bien, il n'y a plus rien, les surrénales sont vides, les accus sont vides, il n'y a plus de cortisone. Mais il y a toujours le feu à la baraque, et il n'y a plus rien pour l'éteindre, donc il n'y a plus de pompiers. À ce moment-là, vous avez plein de pathologies en IT. En médecine, toutes les pathologies qui se terminent en IT, pancréatite, rectocolite, conjonctivite, etc., c'est de l'inflammation qui est bien souvent, qui résulte donc de ces sollicitations, de ces stress. Et après, donc, vous savez que tout est en dualité en médecine. Vous avez de la cortisone d'un côté et de l'aldostérone de l'autre. Et l'aldostérone prend le relais puisqu'elle, on ne l'a encore pas touchée. Et l'aldostérone, elle favorise le feu. Alors vous rendez compte? Alors vous avez des gens, par exemple, qui ont de l'arthrite, qui ont une rectocolite. Et puis quand vous les interrogez bien, quand vous êtes un bon médecin, eh bien, oui, évidemment, j'ai perdu ma femme il y a 4 ans. Et j'ai eu un redressement, comment vous dites, financier.
Moi, je dis pas, moi, ça, je sais pas de quoi il s'agit là.
Bon. Et vous voyez donc toute cette litanie donc de stress qui a eu lieu.
Donc la première règle, bien manger. Deuxième règle, s'en foutre. Mais on va revenir parce qu'on fait la oui. coupure de 19h30, mais je crois oui. qu'on peut résumer comme ça.
Oui, c'est bon.
Merci de passer votre soirée en notre compagnie. Je vous rappelle notre rendez-vous musical de 21h. Tout à l'heure, je vous présenterai Série Jazz, comme d'habitude. À 22h, rendez-vous avec Claudio pour les musiques de films. Et à 23h, pour la suite de notre série consacrée aux grands pianistes. Ce soir, Clara Askill avec des œuvres de Mozart et de Scarlatti au programme. Tout de suite, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct, mercredi 9 juin 2004 de 18h à 21h, en différé jeudi 10 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Bien, reprenons notre entretien avec le docteur Jean-Pierre Willem, qui est l'auteur d'un livre intitulé « Au diable la vieillesse », dans lequel il explique comment on peut, non pas ne pas vieillir, parce que ça n'est pas le ressenti possible, mais comment on peut éviter le naufrage de la vieillesse.
Oui, alors il y a par exemple, même au niveau alimentaire, le nombre d'erreurs que l'on commet. Savez-vous, je vais vous parler d'un mot qu'on appelle la chronobiologie, c'est-à-dire qu'on a tous des rythmes en nous. Alors il y a les rythmes des 24 heures qu'on appelle nictiméral, vous avez mensuel que les femmes connaissent bien. Eh bien, dans la journée, vous avez des hormones qui circulent et qui ont des pics et des chutes. Par exemple, le taux de cortisol est maximum le matin parce que les emmerdes vont commencer. Eh bien, il en est pareil pour les enzymes digestives. Le matin, les enzymes digestives qui vont digérer donc les graisses sont maximales. Or, en France, donc, on mange, on boit un café, on mange pas, ou une petite tartine, etc. Les anglo-saxons, vous les voyez alors à table, il suffit de voyager pour voir un peu comment ça se passe dans les méridiens et tout, vous avez vraiment, les gens prennent des œufs, etc. Et ils n'ont pas tort, parce que si les enzymes digestives qui vont donc de graisse et sont là, c'est qu'il faut leur donner donc de la graisse. Oui,
mais ça ne les empêche pas d'être obèses et cholestériques et cardiaques.
Oui, c'est pas les mêmes. Oui, mais parce que c'est une mauvaise graisse qu'ils prennent, hein, ça c'est évident. Hein. Alors, donc, de même à midi, alors là, il faut remettre par exemple des céréales, des légumes, et le soir, manger très peu, puisqu'il n'y a plus d'enzymes, il n'y a plus rien, donc vous allez stocker toute la nuit. Donc, c'est des petites banalités qu'il faudrait connaître, que j'exhibe dans mon livre. Par exemple, les boissons, je fais un chapitre sur les boissons, on croit que c'est bénin, non. Une eau minérale, elle est minéralisée. Or, d'abord, ce sont des eaux. Les minéraux qui sont dedans ne sont pas opérationnels. Ils ne servent à rien. Alors, on les appelle aussi électrolytes. Et vous entendez électrolytes, électricité. Donc, ça crée au niveau des reins un mouvement brouillien. Il y a une surcharge, ce qui fait que les toxines ne sont pas éliminées. Parce que ça chauffe tellement donc, au niveau des reins.
Alors, c'est effrayant parce qu'on nous dit, si vous buvez l'eau de robinet, vous empoisonnez. Si vous buvez des eaux minérales, vous provoquez des échauffements rénaux. Mais si vous buvez pas, vous allez,
vous faites pas pipi,
alors.
La meilleure eau, c'est,
mal, là,
c'est l'eau distillée, la meilleure. Mais vous avez deux autres eaux que je ne vous cite pas, parce que.
Ah, ben si, il faut les citer.
Bon, il y a le Montroucou et la Volvic. Montroucou, c'est.
Je suis content qu'il y ait Volvic, c'est ce que je bois, alors.
Excellent.
C'est pour ça que je suis en pleine forme.
Ah oui, 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 vous n'avez pas perdu de cheveux ni rien, vous tenez.
Non, j'ai perdu déjà, mais je les ai récupérés.
Bon. Et vous voyez, c'est des choses qu'on ne dit pas. Puis évidemment, le lait, je n'en parle pas.
Le lait, c'est un poison, on est bien d'accord.
Il faut le supprimer avec les fromages. Mais le matin, vous pouvez prendre du fromage.
J'espère qu'on n'est pas trop entendu en Normandie.
Non, mais il y a le fromage de chèvre et de brebis, qui, elle, est plus adapté à nous. Hein, l'enfant qui a 5 ans n'a plus de lactase. Mmh. Je n'ai jamais vu d'un.
En Algérie, ils disent beaucoup, d'ailleurs. En Algérie, ils disent que les chèvres sont beaucoup plus adaptés à l'homme.
Oui, bien sûr. Et puis, il y a une chose que l'on n'observe jamais, même dans les prairies de Normandie, jamais vu une vache qui était une autre vache. Hein, même en canicule. Mais oui, mais là, dans la génétique, ils ont un message qui reste.
Si vous me permettez, c'est un argument que je ne reçois pas.
Mais ben, si, pourquoi pas. Il y a une fontaine qui est toute prête, et pourquoi ils ne le font pas. C'est le veau qui le fait.
Remarquez, ça serait une idée, les deux vaches qui s'entretêtent, si j'ose dire. Là, comme ça, elles se nourriraient. C'est formidable.
Non, mais oui, c'est quand même des observations que l'on fait régulièrement. Donc, je parle, mon livre, c'est un ensemble de petites recettes comme ça.
Alors, c'est ça, c'est un truc pour vieillir en bonne santé, mourir en bonne santé.
Voilà. Puis alors, il y a un long passage sur la ménopause qui évite justement les dégâts.
Pas directement concerné.
On l'avait évoqué il y a 15 ans, maintenant les gens le voient, ils se retrouvent avec des...
Alors, on parle de l'andropause, ça existe ou pas, selon vous?
L'andropause, ça veut dire que c'est beaucoup... comme il n'y a pas un cycle comme chez la femme, donc c'est beaucoup plus insipide, mais c'est le vieillissement, vous savez, c'est ça l'andropause. Hein, c'est, vous le voyez, les désirs qui sont... qui s'atténue, etc. Bon, peut-être parce que on a peut-être plus de femmes, etc. quoi. Mais vous le voyez insensiblement, ça existe, mais c'est beaucoup plus léger que chez la femme. Mmh. Mais elle existe, puisque le mot existe. Je pense que et finalement, inéluctablement, il est dû.
Là, c'est difficile. Hein.
Là, j'aurais pas dû m'embarquer là-dessus. Et alors, vous éteignez, quoi. Finalement, vous arrivez, c'est comme une bougie, quoi. Mais vous pouvez garder votre sagesse. C'est ça qui est intéressant. Vous avez d'autres joies, etc. Et c'est ça qui compte. Mais certes, l'andropause, mais vous pouvez y remédier.
Alors, j'ai un message du docteur Plantet, qui est un ami qui vient souvent à l'émission. Il me dit qu'il a été prouvé que les breakfasts anglo-saxons sont très dangereux. Ça, il suffit d'avoir mangé, pris deux petits déjeuners aux États-Unis pour le savoir. Et les études ont prouvé, les études dans le Lancet, que le petit déjeuner n'avait pas d'incidence sur la santé, dit-il.
Ah ben tout, ses travaux, ça
Je peux quand même vous dire s'il dit que c'était dans le Lancet, c'est que c'était dans le Lancet. Je pense que si on l'avait au téléphone, il pourrait nous réciter l'article par cœur.
Oui, c'est qu'il faut voir les réalités sur place, parce que vous savez que notre cerveau, c'est 80% de matière grasse, donc il faut lui apporter des matières grasses, c'est pour ça qu'il y en a qui sont ramollis. C'est bien réparti, hein, vous avez les glucides, les lipides, et les protéines.
Oui, c'est pour ça que je suis très intelligent, parce que j'ai toutes les réserves du cerveau, je les ai là, autour de la ceinture.
Non, il y a une logique.
Réserve de graisse. Donc, j'ai un cerveau qui manque jamais de graisse.
Non, mais
c'est ça, en gros, non?
Oui, mais
enfin, si j'ose dire, en gros.
Je vous ai jamais vu faire de footing. Hein.
Pas vraiment, non. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter de m'avoir vu faire du footing.
Ni même aller à la piscine, ni faire du vélo. Hein. C'est un minimum.
Bon, du vélo, attendez.
Cataboliser ces choses-là.
Un petit entraînement football de temps en temps.
Oui, il y a longtemps.
Non, il faut équilibrer. On ne peut pas manger que des glucides. D'abord, vous allez détériorer le pancréas, etc. Et en plus, il y a le problème aussi, il y a l'index glycémique qui est bas, c'est-à-dire qu'il va sécréter donc l'insuline, etc. Il y a des choses à respecter, puis... Et quand vous l'appliquez, parce que quand même ce livre, il y en a déjà pas mal, des milliers donc qui l'ont lu, et qui me disent qu'ils sentent nettement mieux.
Mais alors, j'allais vous poser la question, parce que je vous ai devant moi, puis j'ai votre photo ici, sur le livre, donc c'est bien le même. Vous appliquez ce régime à vous-même?
Je l'applique, j'essaye de l'appliquer.
Et si je vous demande votre âge, vous me le dites, ou vous gardez le secret?
Non, moi je ne suis pas une femme, moi j'ai 66 ans.
66 ans.
Mais je cours quand même encore.
Je suis sûr que vous me prenez aux 100 mètres et vous me mettez 80 mètres dans la vue.
Ah oui, j'ai même surpris, parce que vous savez que je traite un petit peu les athlètes de l'équipe de France, j'ai même surpris Christine Aron sur une piste qui n'en revenait pas. J'ai encore des... Non, mais j'ai fait les champions de France d'athlétisme.
J'ai même pas le temps de sortir des starting blocks que vous êtes déjà arrivé, c'est ça?
J'ai quand même encore une inertie.
Alors, ça s'appelle donc, comment retarder... ça s'appelle Au diable la vieillesse, garder la forme et la santé. Et c'est pas du tout un truc rasoir, c'est une série de conseils, non pas de prescriptions, mais avec des explications.
Il y a la cuisson, etc. Est important, tout est important.
Et même les choses intimes, vous ne craignez pas d'aborder ces questions qui maintenant d'ailleurs sont complètement banalisées. Alors l'épôtre, qu'est-ce que vous en dites? Vous en dites du bien.
C'est tout le problème des travaux du docteur Seignalet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'allergies au blé. Parce que le blé, il y a eu 22 gènes.
Gluten.
Il y a 22 gènes, alors que l'épeautre, il y en avait 8. Alors donc, ça encombre et ça crée donc des pathologies auto-immunes.
Et alors, vous êtes venu avec un autre bouquin dont on n'avait pas prévu de parler, mais quand même en dire un mot, parce que le sujet... c'est pas à vous que je vais le faire, c'est à nos auditrices qui vont être ravies d'apprendre comment mincir... Et puis, je connais au moins un auditeur qui va être content aussi. Mincir en 21 jours par les huiles essentielles.
Ça, c'est un défi. Normalement, c'est un livre que j'aurais dû faire. Bon, évidemment, le poids, etc., ça pourrait pas, c'est un petit peu du luxe. Mais je me suis dit, donc, je vais m'y attaquer, parce que ça fait 40 ans que je m'occupe donc des huiles essentielles. Et alors, c'est un défi que j'ai lancé. Le livre est sorti il y a 2 mois. Il y a déjà des milliers de femmes qui disent que c'est miraculeux, en 21 jours. Alors, avec les huiles essentielles, donc, qu'on appelle les essences, mais le terme exact, c'est huiles essentielles, donc, qui sont toutes ces plantes, ce sont donc des bombes biochimiques qui sont passées donc par l'alambic et qui ont des effets vraiment remarquables et qui agissent donc aux 4 niveaux, j'allais dire, du surpoids. Au niveau de la surcharge pondérale et de la cellulite, vous avez le basilic que vous connaissez certainement, la cannelle de Chine, le cèdre, la sauge. Vous avez aussi les troubles digestifs et la régulation de l'appétit. C'est assez important. Vous avez le citron qui marche très bien. Vous avez la camomille noble, l'estragon que vous mettez dans votre salade. Et alors ces deux-là, en plus camomille noble et estragon, sont anti-allergiques. C'est les deux seules huiles essentielles anti-allergiques. Il n'y en a pas beaucoup de plantes anti-allergiques. Et qui aident à la digestion. Ce sont des e-peptiques, c'est-à-dire qui favorisent la digestion. Et la menthe citronnée que tout le monde connaît, surtout au Sahara avec le thé à la menthe. Vous avez le troisième aspect, donc le drainage et l'élimination des toxines qu'on vient d'évoquer. Alors vous avez la livèche qui est très peu connue, mais c'est une des rares qui lève les émonctoires. Les émonctoires, c'est les organes de sécrétion, les reins, etc.
Faudrait donner, oui.
Vous avez le céleri, qui donne la rémoulade, mais moi je le donne donc en huile essentielle. La carotte cultivée, excellente, et le myrte vert. Et je disais au féminin avant, et c'est masculin, le myrte vert.
Le myrte qui est dans la crèche, alors, avec l'encens.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et le quatrième aspect, c'est la circulation veineuse et lymphatique. Et là, beaucoup de gens souffrent, moi le premier avec la chaleur, parce qu'on congestionne. Alors il y a le cyprès éternel, là on fait pas mieux. Vous avez le romarin, normalement il faudrait donner romarin verbenone, parce que vous avez plusieurs catégories de romarin. Vous avez le genévrier alpin ou commun, et enfin vous avez le pin sylvestre. Donc, et tout cela dans le livre, donc c'est un livre de poche, qui vous l'avez bien en main, 12 euros
pour perdre 20 kilos. Mincir, ça veut dire quoi? Ça veut dire perdre du poids ou...
Mincir, mais ça veut rien dire, c'est-à-dire récupérer une silhouette, mais vous allez me renvoyer à mincir. Une silhouette, quelle est la bonne? Parce qu'il y a des problèmes de canon.
La bonne silhouette, c'est celle qui fait se retourner les dames. Enfin, pour nous, et puis pour les dames, c'est celle qui nous fait nous retourner, nous.
Oui, mais en médecine chinoise, celui qui est enveloppé un petit peu comme vous, les femmes aussi, les talonnes, mais peut-être pour une autre raison, parce que d'abord, ils sont joyeux, sont des gens pléthoriques qui...
Il faut dire ça à ma femme, que les gros sont joyeux.
Donc, ce livre, je vous dis, je l'ai sorti, ça devient un best-seller, et vraiment, il est d'une efficacité, il fallait y penser. Bon, on s'attendrait à moi qui m'occupe plus de pathologies plus lourdes, mais je l'ai fait, parce que finalement, c'est une souffrance quand on est un peu surchargé, surtout chez les dames. Les hommes, bon, c'est aussi valable pour les hommes. Et alors, et dedans, je donne les formules des bains aromatiques, là où on les achète. L'huile, c'est pas trop cher, ça doit être 20 euros. Vous avez le bain aromatique le soir, vous avez le gel et l'huile de massage avec la composition de 6-7 huiles essentielles. C'est vraiment redoutable.
C'est Byzance.
C'est Byzance. J'aurais même pas dû le, parce que c'est un coup de baguette magique et puis il faut souffrir un peu pour être belle. Et là, elle ne souffre plus.
On les battra. Bon, alors, on demandera à Goffman.
Je veux pas jouer aux jansénistes. Hein.
Excusez-moi, mais si on possède déjà ces huiles essentielles dans sa commode, on les utilise comment? Parce que moi, j'ai presque tout ce que vous venez de citer.
À ce moment-là, vous faites donc une préparation avec un excipient qui est une huile végétale et qui va éviter, parce que vous avez quand même quelques petites qui peuvent un peu brûler la peau, alors on met une huile végétale, amande douce ou du calophylle ou du germe de blé, macadamia, il y en a beaucoup. Hein. Vous pouvez même faire dans ce livre, c'est mis les recettes que vous pouvez faire. Et puis aussi, je donne des recettes pour l'esthétique. Hein. Il y en a qui ont des rides, des vergetures. C'est un ensemble. Les taches, je les ai, les taches de vieillesse ou je ne veux pas dire de cimetière, je ne sais pas, il y en a qui disent ça.
Les fleurs de cimetière.
On a encore des années devant nous.
C'est joli de faire du cimetière. Est-ce que vous vous occupez toujours de votre association
Les Médecins
Pieds Nus?
Oui, bien sûr.
Mais alors, vous dormez combien d'heures par nuit?
Il me faut 6 heures.
Ah oui,
il me faut 6 heures et puis 5 minutes pour ma prière.
Ça, c'est bien.
Ah, oui.
Essayez plutôt de dormir 5 minutes et de prier 6 heures, comme font les moines. Vous allez voir, ça
et je suis rythmé. Hein, dès que j'attaque par l'acte de contrition et j'ai le premier bâillement. Et ma cinquième prière, il y a le cinquième bâillement, et puis je suis avec les anges, je ne sais pas où. C'est systématique.
Mais pour vous endormir ou pour...
Pour m'endormir, oui. Je ne sais pas, il doit y avoir aussi des connexions qui se sont opérées. Dès lors que j'attaque je viens d'écouter la télé qui fait du bruit pourtant.
Ouais.
Eh bien, je me couche, j'attaque l'acte de contrition. À la deuxième phrase, il y a un gros bâillement, je me libère. Et la cinquième prière, le cinquième bâillement, puis après, j'ai pas le temps de terminer, mais c'est Dieu qui termine à ma place.
C'est formidable. Voilà un bon conseil. Donc, les huiles essentielles, la prière, et vous resterez en forme jusqu'à un jeune homme de 66 ans.
Pas de dîner le soir.
Pas de dîner le soir.
Je sais pas si vous vous souvenez de ce détail.
Cécilia parlait dans le micro.
Monseigneur Lefebvre, qui a été très actif jusqu'à un âge avancé, ne dînait plus le soir depuis des années.
Ah oui. Je me souviens d'un déjeuner avec Monseigneur Lefebvre où l'abbé Olanier s'est levé à la fin du déjeuner et Monseigneur Lefebvre l'a regardé d'un air un peu épouvanté, puis l'abbé Olanier s'est retourné et il a pris une bouteille de champagne et Monseigneur Lefebvre a dit « Ah, vous m'avez fait peur, j'ai cru que vous alliez faire une prière ». C'était une gentille farce, hein, bien entendu, enfin une gentille plaisanterie. Alors, Docteur Jean-Pierre Willem, aroma minceur.
Chez Albin Michel.
Minci en 21 jours par les huiles essentielles, ça vaut 12 euros. Puis c'est très simple. C'est fait un peu comme un journal, c'est-à-dire il y a des encadrés, il y a des choses comme ça, c'est très facile d'accès. Et puis un beau livre qui vous donne envie de vieillir. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie, c'est exactement le même prix. Ça s'appelle Au diable la vieillesse, garder la forme et la santé. Ça, c'est aux éditions du Dauphin.
Il
publie beaucoup de choses fortes. Intéressante dans ce domaine-là, 22 euros tiers. Je vais donner l'adresse des éditions du Dauphin, parce que peut-être qu'ils feront un catalogue,
oui,
non
c'est, oui, oui, c'est rue alors, de la Tombissoire.
Voilà, alors, 43-45 rue de la Tombissoire. Mais la Tombissoire, c'est sortir du tombeau. Hein.
Ah oui.
C'est ça que ça veut dire, histoire. Sortir, issir du verbe.
Ah, on y est.
Ah, voilà.
Ouais, oui. Hein.
Aux éditions du Dauphin, 43-45 rue de la Tombissoire, 75-014 Paris. Albin Michel, je ne donne pas l'adresse parce que tout le monde le connaît.
Et une auditrice demande si on peut avoir les coordonnées du docteur Jean-Pierre Willem. Est-ce qu'il le consulte?
Je ne consulte plus. À la rigueur, il y a des gens qui sont en détresse à travers la France. Par mois, je réponds à 300 patients, mais je suis vidé, hein, jusqu'à des fois 2 heures du matin parce que j'ai des scrupules. Parce que des gens souffrent et puis il n'y a pas de solution, alors qu'avec les huiles essentielles, il y en a.
Et que pensez-vous du jeûne curatif et du docteur Shelton aux États-Unis qui guérit beaucoup de maladies par le jeûne?
Oui, le jeûne, mais les trois grandes religions monothéistes préconisent le jeûne tout simplement parce que ça vous met donc en acidocétose qui est le secret pour éviter donc le cancer et l'infarctus. Hein, Otto Warburg, en 1923, a eu le prix Nobel pour l'avoir dit, et on l'a appliqué à l'INSERM, ça a été interdit de le publier. Serge, vous connaissez donc toute l'histoire qui est
derrière.
Et le jeûne, en même temps, purifie, mais on ne le fait plus, les catholiques ne font plus, ils mangent même le beefsteak le vendredi, et les musulmans se rattrapent le soir. Mais faites un jeûne, ça purifie, ça ouvre tous les émonctoires. C'est évident.
Le problème du jeûne, c'est que je connais quelqu'un qui a décidé de jeûner, mais juste au moment où il commence à s'habituer, il est mort.
C'est triste.
Ah, il est...
Et chacun son eau. Alors cet auditeur vous dit, je prends de l'eau Vattevillers, des Vosges, et c'est la meilleure des eaux.
Elle est bonne, et c'est exact. J'ai oublié de la citer.
Et... Merci docteur.
Et je vous remercie.
Attends, aussi on lui reproche, mais on reproche au docteur, une auditrice, d'incriminer les oméga 3 en capsule.
Ah non, non,
et
non, c'est
il y a une erreur premiers, là.
Mais non, les oméga 3, ça permet d'ouvrir les membranes.
C'est pas. Oui,
ah non, non, c'est.
On a parlé.
Non, non, ah,
non, simplement, les oméga 3, il faut que vous sachiez une chose, c'est que le produit que vous achetez dans la pharmacie à 20 euros, 25 euros la boîte, vous avez exactement le même produit, exactement le même, dans des boîtes à 8 euros ou 10 euros, et qui s'appelle. Comment ça s'appelle les petites gélules qui ressemblent à des petites fusées là, mais c'est exactement le même produit, mais simplement comme il est pas, c'est un produit thérapeutique, il n'est pas promu par l'opération Servan-Schreiber, et ben il coûte le tiers tout simplement. Voilà. Alors, je vous le dis, c'est pas la peine d'acheter le produit qui s'appelle oméga 3 parce que vous avez le même trois fois moins cher.
Vous leur dites pas comment faire.
Ah, mais je vais vous donner le nom d'une huile qui s'appelle la Peria, qui vient de Chine. Elle a 63% d'oméga 3. C'est miraculeux, c'est pas trop cher. Donc, laboratoire Aromalia, il est cité dans le livre Aroma Minceur, Aromalia. Donc, c'est de la Peria qui vient de Chine et en plus qui est anti-allergique et qui recèle 92% de gamma-tocophérol, c'est-à-dire la vitamine E qui est antioxydante. C'est vraiment, vous pouvez pas trouver mieux. C'est quelque chose de providentiel.
Vous dites Peria,
P-E-R-I-2-L-A. La Peria, ça commence à avoir du succès. Voilà, je vous quitte. Un grand merci.
Merci, docteur. À bientôt.
Une remarque pour vous, Serge. Pour sortir des starting blocks, il faut déjà pouvoir y entrer. Je blague.
C'est pas mal vu. Merci, à bientôt, docteur. On va faire un peu de jardinage. Ensuite, on va revenir à des sujets plus austère, puisque je recevrai Nicolas Bay, qui est tête de liste MNR pour les prochaines élections européennes, c'est ça? C'est bien, hein, je ne me trompe pas, parce que moi ça m'intéresse tellement tout ça que... Bon, mais avant, vous allez faire un peu de jardinage avec nous, Nicolas, vous êtes d'accord? Très bien. Puis après, je vous demanderai de rester avec les jeunes identitaires que je recevrai également. Vous aurez peut-être des choses à leur dire.
Oh non, je crois que...
On verra.
Je préfère qu'on parle des élections européennes distinctement de ce qu'ils vont traiter eux, ça n'a rien à voir.
À vous, Cécilia. Ah ben pardon, musique. Avant de donner la parole à Cécilia, je vous l'ai déjà donné, mais je la reprends parce que j'ai fait une bêtise de plus. J'ai confondu la myrrhe et la myrte.
Mais je vous l'ai dit, vous ne m'avez pas entendu.
Ah, parce que je vous écoute plus.
Moi, j'ai de l'huile essentielle de myrrhe, je suis très aromathérapie à cause de mes filles qui m'ont converti à ça.
Je me confonds en excuses. Au lieu de confondre la myrhe et la myrte.
En plus, c'est magique.
Devant une jardinière.
Voilà, alors je salue les auditeurs quand même. Nous allons donc parler de fleurs et de légumes ce soir, puisque je reçois Catherine de la Source, pardon, qui est décoratrice en art floral, professeur d'art floral. Elle se dévoue au service de la liturgie en donnant des cours aux paroissiennes de Notre-Dame de Versailles, hein, c'est ça, et qui est surtout jardinière. Elle est venue nous parler de son potager en Dordogne. Et vous allez voir, il est magnifique. Alors, j'ai quelques petites annonces, bien entendu. Je vais vous promener un petit peu à travers la France. Je vous emmène d'abord en Alsace pour le fameux festival des Deux Rives qui se tient jusqu'en octobre, où il se passe quelque chose absolument tous les jours. En ce moment, je vais citer seulement trois choses. Hein. Rendez-vous avec le jardin, l'environnement et la gastronomie. Les vendredis, samedis et dimanches. Dans la journée, la danse au jardin, s'il vous plaît. Parcours danser au jardin. Et alors ça, ça se tient tous les vendredis à 18h30 du 21 mai au 24 septembre. Alors je donne simplement le numéro de téléphone de l'Office du tourisme de Strasbourg et de la région où on se renseigne sur toutes ces manifestations. Parce qu'il y a du cirque, de la danse et de tout, de l'artisanat et beaucoup de jardinage. Et un échange d'art floral entre le pays de Bade et l'Alsace. Permanent. Alors, le téléphone de l'Office du l'Office de tourisme de Strasbourg est très facile à trouver puisqu'il est en face de la cathédrale. Et le téléphone est le 03 88 52 28 28. 03 88 52 28 28. Et si on veut utiliser le télécopieur, ça se termine par 28 29. C'est le même numéro par 28 29. Ensuite, je vous emmène en Bourgogne chez notre ami Jean-François Laporte, que nous avons souvent reçu ici, l'ancien maître parfumeur et gantier, et qui a créé un jardin dans la région de Bourgogne où la Puisée, d'où était originaire Colette. Je vais donner l'adresse exacte. Entièrement, c'est une sorte de parcours initiatique dédié aux parfums et aux senteurs. Hein. Toutes les plantes qui sont cultivées dans ce jardin sont à senteurs et où ils peuvent aboutir en parfum. Et alors cette année, l'accent est mis sur la rose. Et il y aura donc la rose sera présentée sous toutes ses facettes et tout son parfum à travers toutes les variétés. Et il y aura entre autres une grande collection de roses guillot, les pépiniéristes qui ont su protéger leur patrimoine de rosieristes avec talent, dit le parfumeur. Alors donc ça s'appelle le jardin du parfumeur. C'est à 160 km au sud de Paris, par l'autoroute A6, et c'est dans la nature de la Puisée, c'est-à-dire la Bourgogne du Nord. L'ouverture est donc maintenant faite depuis le 1er juin jusqu'au 3 octobre 2004. Les fins de semaine, vendredi, samedi et dimanche, de 14h30 à 18h30, jusqu'au 14 juillet, et ensuite du 14 juillet au 15 août, tous les jours, de 14h30 à 18h30, sauf le lundi. Il y a des visites conférences sur rendez-vous. On peut visiter seul avec un guide qui vend une vue à l'entrée, qui est un petit ouvrage d'art. Le prix d'entrée est de 6 € pour les enfants. Non, 6 € pour les adultes et les enfants de moins de 10 ans, 3 €. Ça se trouve à Mézières, 89 130. Et là encore, je donne le téléphone pour ceux qui veulent des renseignements supplémentaires. 03 86 45 43 87. 03 86 45 43 87. Et si vous avez la chance d'être là un jour, le maître des lieux est là personnellement, je vous assure que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors maintenant, en Poitou, n'est-ce pas, pour changer. Dans le cadre de Laissez-vous compter Poitiers, de printemps 2004, un certain nombre d'animations gratuites. Alors, de l'abbaye Saint-Cyprien au jardin des Sens, ce dimanche 20 juin, pour les adultes. Voyage au pays des petites bêtes et le parc de Blossac pour détectives en herbe pour les enfants, les mercredis 16 et 23. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Ce sont des visites gratuites, mais il faut quand même s'inscrire auparavant, parce que ça permet de limiter les groupes, ainsi les visites sont plus intéressantes, et aussi d'être prévenu en cas de mauvais temps et d'annulation de la promenade. Je donne donc le numéro de téléphone de l'Office de tourisme de Poitiers, que je le retrouve, c'est écrit en très petit, service accueil, 05 49 41 21 24 05 49 41 21 24. Le patrimoine poitevin est extrêmement riche. Il y a donc énormément d'autres animations. J'annonce celles-ci parce qu'elles sont autour de la nature et qu'elles sont gratuites. Alors, au parc floral de la Belle, à 20 km de Poitiers, fête de la rose et du fuchsia. Les samedis et dimanches, 12 et 13 juin, de 10h à 18h. Alors, des contes sur le thème de la rose, exposition, etc. Et la fête, la fête de l'école de musique, bon, c'est très bien, parce que c'est dans un beau cadre, mais j'insiste là-dessus, parce qu'au parc de la Belle, il y a une plantation de chênes truffiers, dont a parlé l'un de mes derniers invités, qui était le président des exploitants truffiers de la Vienne. Et il conseille la visite de cet espace si on s'intéresse un petit peu à la truffe. Alors, le parc de la Belle est situé à Magnier, près de Jancey, Et le téléphone, le numéro de téléphone est le 05 49 36 05 45. 05 49 36 05 45. Et si on ne veut pas passer toute la journée parmi les fleurs, on va jusqu'à la vallée des singes qui est tout à fait exceptionnelle. Et maintenant, nous revenons à Versailles, où se tient actuellement une exposition intitulée « Sculpture de tempête ». Les artistes et les artisans font renaître les arbres abattus par la tempête de 1999. Une trentaine d'artistes exposent leurs œuvres, qui sont extrêmement variées comme style. Ça va de l'art naïf pratiquement à l'art abstrait. Tu l'as visité, Catherine, elle est superbe. Alors, donc, ça se tient jusqu'au 27 juin, de 14h à 19h, aux orangeries de Trianon, et l'entrée est gratuite. Et il y a quelque chose d'amusant, qui peut intéresser certaines personnes, qui s'intéresse les bois de Versailles. C'est un fabricant de couteaux qui fait des couteaux qu'on peut qualifier d'art, qui sont vendus avec certificat d'authenticité et dont les manches sont taillées dans les arbres de la tempête. Alors le tulipe-pied de Marie-Antoinette, l'ive du bosquet de la Reine, le cèdre de l'Atlas, le tulipe du Trianon, etc. Les petits morceaux sont devenus des couteaux qui sont splendides. Tu as vu ça avec tes petits-fils et je crois que ça a été très intéressant. Je rappelle la manifestation annoncée le mois dernier par notre ami Manuel Pluvillage. Fruits rouges en fête au potager du roi, les 12 et 13 juin prochains, de 10h à 18h. Dégustation, visite, vente, animation. Il y aura la signature d'un livre sur les fruits rouges aussi. Donc l'entrée est à, alors c'est écrit en tout petit, le potager du roi, ben ça tout le monde sait où il se trouve, rue du Maréchal Joffre. L'entrée est à 6,50 francs, tarif réduit, je ne sais pas exactement qui il concerne, hein, 3 euros. J'ai dit 6,50 francs, 6,50 euros et 3 euros. On peut téléphoner au 01 39 24 62 62. J'en ai plus que 10 minutes, alors je me dépêche. Et alors, toujours à Versailles, je rappelle le calendrier de notre ami Vincent Berteret, qui aimerait avoir des nouvelles de Serge.
Que je salue.
Donc Catherine peut dire quelques mots. Elle est allée lui dire au milieu de la visite, « Monsieur, voilà 30 ans que j'attends. » Elle habite Versailles depuis 40 ans. « Voilà 30 ans Absolument. Que j'attends qu'on me dise ça, qu'on me raconte
qu'on
ça. »
On raconte l'histoire.
Ah, c'est vraiment, par les statues, c'est extraordinaire. Hein. La vie, c'est vraiment, c'est une conférence-promenade extraordinaire. C'est une richesse, une originalité vraiment exceptionnelle.
Elle peut quand même rappeler son livre que...
Des jardins Versailles, des
Catherine
jardins Versailles.
A acquis des jardins Versailles qui coûtent, je crois, 30 euros. Qu'on commande chez lui, AMDG, 4 rue Salomon Rénac, 78 100 Saint-Germain-en-Laye. Et les prochaines visites auxquelles on peut s'inscrire individuellement, il accepte aussi les groupes, mais là il faut prendre rendez-vous avant, le dimanche 20 juin, dimanche 4 et mercredi 14 juillet, dimanche 29 août, dimanche 5 et 19 septembre. Et je vous assure qu'on ne le regrette pas.
Tu choisissais le 14 juillet, en général, est particulièrement en verve.
J'imagine, tel que je l'ai vu, j'imagine. Alors, j'ai pas le temps de présenter mes livres, on passe tout de suite à Catherine et on parle ensuite.
Il vous reste 10 minutes, donc vous...
C'est pas très long. Alors, j'ai
parce que je sais que vous allez dépasser, donc je prends mes précautions.
Alors, si j'ai le droit de dépasser, ça va. Alors, j'ai choisi des livres en l'honneur de Catherine, le catalogue des Cocopelli, avec Dominique Guillet, qui est l'animateur des Cocopelli. C'est un rendez-vous manqué déjà à deux reprises. Alors, je n'attends plus pour présenter leur troisième édition d'un catalogue qui recense 600 espèces de tomates, etc. Toutes les graines, l'histoire des plantes, leur mode de culture. Elles sont classées par famille, ensuite il y a un index à la fin. Et Catherine l'a feuilleté, l'a trouvé absolument superbe. Si tu peux me rendre la feuille qui est dedans pour que
c'est
je
un gros bouquin, hein, on dit catalogue, il ne faut pas croire que c'est le...
C'est
pas le catalogue de la manufacture des armées, c'est que c'est
alors,
un
les semences
gros livre.
De Cocopelli. Cocopelli est ce personnage mythique mexicain qui porte une bosse et dont certains disent qu'en fait sa bosse contient les semences de vie. Et il essaie de lutter contre les OGM et toutes ces choses. Mais il viendra nous en parler de ça. Donc je voulais quand même présenter son livre, c'est sa troisième édition. Il coûte 40 euros et on se le procure chez lui par correspondance. Je ne sais pas si on le trouve facilement en librairie, mais on peut le commander. Alors, semences de Cocopelli, je donne Oasis. Association Cocopelli, Oasis, 131, impasse des Palmiers, 30 100, Alès. Et alors, encore un téléphone, ça devient lassant. 04 66 30 64 91. 04 66 30 64 91. Ah, ça c'est gentil. Et puis, après, un petit livre amusant et qui convient tout à fait à Catherine, puisque ça s'appelle « Le potager dans l'assiette ». C'est une publication sous l'égide de la Société nationale d'horticulture de France. Donc là, pour une fois, les légumes sont classés par ordre alphabétique, ce qui est très pratique. C'est magnifiquement illustré avec les trésors de la bibliothèque de la Société d'horticulture. Et derrière cela, alors c'est signé de Yves Le Floch-Soy, mais derrière cela, il y a certaines de nos amis, dont Marie-Hélène Leduc, Marie-Alice Sinati, qui sont déjà venues à ce micro. Et donc, voilà, plus de 150 recettes faciles à réaliser. Il n'y a pas la fameuse terrine de poivron de Catherine, mais il y en a quand même qui sont pas mauvaises.
Vous l'aurez si vous la désirez.
Et il coûte 25 euros. Il est publié par Solar. Et je vous le fais feuilleter parce qu'il est vraiment très joli.
Je vous le fais feuilleter. Je vous parle pour celui-là.
Ah ben, celui-là, bon, je vous en donnerai d'autres. Hein.
Très belle illustration.
L'herbier oublié, qui est très original et d'une maison d'édition que j'aime beaucoup parce qu'ils font toujours des choses tout à fait particulières. C'est un herbier qui a été créé par un pharmacien lorrain au début du XXe siècle, qui a été retrouvé. Alors ils ont les 70 planches, qui sont évidemment publiées en facsimilé, et en face, ils ont eu l'idée de demander à Bernard Bertrand d'établir la carte d'identité de la plante avec sa photo fraîche pour qu'on la reconnaisse facilement, les noms populaires, l'étymologie, le langage de la plante en question, son histoire, les anecdotes, et puis une partie médecine, une partie cuisine, toujours des recettes de cuisine, et puis tout ce qu'on peut faire avec la plante en médecine. Alors là aussi, il faut le demander spécialement chez son libraire, parce que l'éditeur est... Alors l'auteur est Bernard Bertrand, et le botaniste, on peut quand même le citer, il s'appelait Henri Sauveur, le bien nommé. Et Plume de Carotte est à Toulouse, boîte postale 1121, c'est-à-dire 1121. Et l'ouvrage coûte 30 euros. Et vraiment, ça vaut la peine, c'est vraiment, si on s'intéresse un peu aux plantes. Alors, rapidement, parce que là, les gens partent en vacances, le guide des châteaux de France. Plus de 10 000 châteaux ouverts à la visite. Il est très facile, très solide, il est classé par région, donnant aussi les hôtels voisins quand les châteaux ne logent pas eux-mêmes. Et il est édité par le Cercle du Patrimoine et il ne coûte que 15 euros. Et je trouve que ça, c'est vraiment à viser dans sa boîte à gants pour visiter la France. Alors maintenant, Catherine. Catherine exploite un potager fleuri dans une ravissante propriété de Dordogne. Alors, explique-nous un peu comment tu es venue au jardinage coloré.
Bien voilà, c'est un potager qui a toujours existé dans cette propriété, dont nous en avons maintenant la charge, on peut dire. Ce potager est un potager familial dont la structure était comme tous les potagers d'antan, c'est-à-dire des grands rectangles avec fleurs, légumes mélangés, etc. Et l'entretien devenait très très difficile et quand on a repris le potager, on a décidé de couper ces grands rectangles et d'en faire des carrés de couleurs. Alors, en fait, nous avons coupé ces grands rectangles, fait des allées d'herbe, et chaque carré est un carré de couleur avec des fleurs et des légumes mélangés dans le même camaïeu de couleurs. C'est-à-dire
un carré bleu, un carré rouge,
un carré jaune, un carré blanc, voilà. Et en fait, un camaïeu, c'est une gamme de couleurs qui part dans le même ton, en partant du plus foncé pour aller jusqu'au plus pâle ou plus clair, ou bien dans l'autre sens également. Alors, par exemple, dans le carré rouge, se mélangent les poirées ou les blettes à côte rouge, les ignats dégradés de couleurs différentes, mais toujours dans la même gamme de couleurs, les aubergines, les dahlias rouges et roses, les tomates, les choux red border, et puis on trouvera dans le carré blanc les poirées ou les blettes à côte blanche qu'on a trouvé qui étaient rouges dans le carré rouge, et puis dans le carré jaune elles seront jaunes, et voilà, dans le carré jaune on aura les poivrons
jaunes. C'est Archimboldo, vous nous faites?
Non, c'est pas Archimboldo parce que il y a pas de forme, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est quand on marche au milieu de tous ces carrés, de voir, si vous voulez, la joie de pouvoir mélanger toutes ces graines qui sont tellement minuscules quand on les sème, parce que je fais entre 800 et 1000 pieds dans ma petite serre que je repique dans le jardin. J'essaye de faire le maximum moi-même. Enfin, et alors c'est merveilleux de voir l'exubérance de toutes ces fleurs en plein mois de juillet.
Les photos que vous avez apportées, on peut pas voir, sont alors, splendides.
Vous avez vu le potager tel qu'il est actuellement. Et tel qu'il sera.
Voilà, alors ce sont des... évidemment, tout disparaît à l'automne, tout est bêché, retourné,
c'est ça que j'admire.
Et tout recommence au printemps. Il est certain que ça demande des heures et des heures de travail.
C'est vous-même qui faites ça.
Alors je fais ça
pratiquement seul.
Presque seul, avec une personne qui est à la maison, qui mène, mais enfin qui ne fait pas que le jardin, il fait aussi autre chose.
Les fleurs servent à fleurir la maison. Et
les légumes
à nourrir les amis, la famille, les invités, parce que Catherine est une excellente cuisinière en supplément.
Et alors en fait, le mélange de fleurs et de légumes est parti un peu de l'art floral, même beaucoup de l'art floral, parce que dans les bouquets, on utilise non seulement des fleurs, mais on utilise des feuillages, on utilise des fruits. Les feuillages sont en général dans le dégradé de couleur des fleurs, donc dans un carré bleu, il n'y a pas énormément de fleurs bleues en plein été. On essaye de trouver le feuillage qui est bleu et non pas vert jaune, c'est-à-dire le brocoli, le chou de Milan. On mélange également tous les légumes que l'on peut trouver. Et en fait, c'est l'art floral qui m'a fait découvrir un peu ou recréer ce potager dans l'esprit d'un bouquet.
Mais je voudrais vous poser une question un peu banale, enfin pas banale, mais technique. Quelle est la surface de cet ensemble?
Le potager lui-même, ce qui est cultivé en tant que potager, fait à peu près 500 mètres carrés.
Et combien de temps y consacrez-vous?
Ah, voilà, j'y consacre. Probablement 3 pleins mois par an, mais en petits morceaux, si vous voulez.
C'est-à-dire
il y a le gros moment de
90 jours par an. Autrement dit, on pourrait pratiquement dire 700 heures par an de travail au potager pour avoir ça. Donc c'est quand même c'est énorme.
Tout en vivant à Versailles et en Dordogne, vous voyez un peu à Chine.
Toujours entre deux.
Et alors le problème évidemment, c'est l'arrosage, c'est tout. Mais le gros moment, c'est les semences qu'il faut pas louper, parce que quand on sait que ces semences, elles sont, voilà, si ça ne marche pas, mais c'est toute la saison du potager qui en dépend.
Alors, chaque année, les carrés, les couleurs
il y a une rotation des carrés, de couleurs, parce que les plantes tirent du sol toujours la même substance, donc il faut absolument faire une rotation pour que...
Est-ce que vous utilisez des techniques, par exemple, pour avoir des bleus plus profonds? Est-ce que vous mettez de l'ardoise, des choses comme ça, ce qui se fait parfois
Le potager en lui-même est déjà un gros travail, et je respecte surtout la terre telle qu'elle est, c'est-à-dire elle donne certaines choses. C'est vrai qu'en Dordogne, on ne peut pas planter des hortensias ni des rhododendrons parce que ça ne pousse pas. Je ne tiens pas à faire un apport de terre. En plus, je trouve qu'il y a des choses merveilleuses qui poussent dans le terrain argilo-calcaire. Eh bien, restons dans ce qui pousse dans notre région.
Alors vous n'avez pas du tout besoin des techniques du docteur Willem pour rester jeune, parce que 700 heures de travail au potager.
Il me donne quelque chose pour le mal au dos, mais
elle est dotée d'une vitalité extraordinaire, Catherine. De toute façon,
vous savez, c'est une passion, et le moment le plus merveilleux, je dois dire, c'est le matin vers 6h, 6h30, quand on est seul dans son potager et on observe les écureuils qui grimpent dans les arbres, le silence et toutes ces fleurs et ces légumes qui sont là pour votre joie et votre bonheur. Enfin, voilà,
faut signaler que tu es rattaché aux parcs et jardins d'Aquitaine, à l'association des parcs et jardins d'Aquitaine, que tu ouvres quand même ce potager certains jours de l'année.
C'est visitable.
Absolument, c'est ouvert au public. Sur rendez-vous, je peux donner le numéro de téléphone pour tous ceux que ça intéresse, au 05 53 23 81 21 et ou bien le 06 61 72 05 65.
Alors,
Alors 05 53 23 81 21 ou le 06 61 72 05 65.
C'est précisément à quel endroit? Enfin, précisément.
Sud de Bergerac.
À sud de Bergerac, c'est ça.
C'est limite Lot-et-Garonne. Nous sommes dans le village qui s'appelle Eymet, E-Y-M-E-T, et nous sommes vraiment au sud du département, limite du Lot-et-Garonne.
Donc on peut également arroser de bon vin les produits du potager.
Absolument. Du reste, j'ai de la vigne. J'ai mis des rangées de vignes dans mon potager pour que les petits-enfants puissent aussi... C'est un but aussi familial, surtout. Que chacun, quand on passe dans le potager, puisse grignoter ce qu'il a envie de grignoter.
J'en conclue que vous avez des petits-enfants.
À plat. Et
voilà. Est-ce qu'il se manifeste chez eux une attirance pour le loisir de grand-maman?
Oui. Mais enfin, ils trouvent que ça prend beaucoup de temps.
Alors, on peut dire aussi que tu as eu un prix.
J'ai eu quelques prix. J'ai eu notamment le prix des parcs et jardins d'Aquitaine, le prix de la SNHF, le prix d'honneur de la SNHF. Enfin voilà, et le prix aussi parce que j'expose et j'ouvre le potager une fois par an au village. Et il y a un concours de fleurissement du village. Et bien sûr, je fais partie de ce concours de fleurissement.
À quel moment faut-il y aller pour vraiment bénéficier du spectacle le plus éblouissant?
Eh bien, je pense que le très bon moment, c'est fin juillet, début août, parce qu'on voit bien encore la structure des carrés, alors que fin août, c'est super, parce que tout est en fleurs, mais c'est un peu plus fouillis.
Je vais essayer d'emmener ma femme vous voir, parce que
très c'est
une jardinière rentrée, elle est malheureuse de ne pas avoir...
Très heureuse de vous accueillir.
Elle sera ravie de voir, c'est vraiment splendide.
Et la région est très jolie, il y a beaucoup de jolis jardins à visiter.
Et puis alors, nous annoncerons tes journées de septembre. Comme nous
alors oui, on organise. Enfin, j'organise fin octobre une journée plantes et gastronomie, échange de plantes et gastronomie. Je dois dire que mon mari aussi a découvert une irrigation absolument passionnante en observant une certaine un dénivelé le long d'un petit coteau. Et en fait, il a découvert une irrigation qui est vraiment romaine. Enfin, oui, on ne sait pas très bien.
Gallo-romaine
en tout cas, qui part de la source, parce que nous avons une source.
Ça tombe
qui
bien.
Alimente
ça s'appelle comme toi.
Nous vivons presque en autarcie. Et cette irrigation est passionnante parce qu'elle court le long d'un talus et probablement qu'elle irriguait des jardins en terrasse qui n'existent pas ou qui n'existent plus, dont on n'a pas retrouvé encore les schémas. Mais il serait très intéressant de savoir pourquoi cette canalisation
immense
que mon mari appelle un aqueduc.
C'est à l'origine.
Et c'est un travail très soigné.
Et c'est un travail mais remarquable, de pierre taillée, avec des pierres de décantation. C'est superbe.
Mais le travail d'irrigation des Romains était extraordinaire. On voit quand on va au pont du Gard... On voit sur des dizaines de kilomètres avec des dénivelés de quelques millimètres.
Exactement.
Ils arrivaient à faire circuler l'eau, mais des quantités phénoménales d'eau pour alimenter les villes avec une économie de moyens vraiment extraordinaire.
Tout à fait.
C'est passionnant tout ça. Je regrette vraiment qu'on ne puisse pas montrer des belles photos que vous avez faites.
Je vais dire un petit mot pour remercier l'auditeur qui, il y a 2 ans, m'avait envoyé des documents sur les Cocopelli, que je pensais remercier en invitant Dominique Guillet. Alors, je lui signale, s'il nous écoute ce soir, que ça vient. On y pense. Et alors, un auditeur nous dit, vous devriez vous intéresser à la culture d'intérieur sous lampe. J'ai fait pousser des pensées, des cyclamènes en plein hiver. Il va falloir que je cherche un spécialiste de la culture d'intérieur sous lampe, parce que j'avoue humblement que je n'ai encore jamais pratiqué.
Et puis c'est quand même grâce à vous qu'on aura dit du bien du coco dans une émission de Serge de Wicquet sur Radio Fantasy.
Alors je vais saluer nos auditeurs. Je leur donne rendez-vous en principe au 28 juillet. Nous parlerons, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, nous parlerons d'Ikebana avec une grande spécialiste de la chose. Je remercie Catherine et je lui souhaite vraiment un très bel été.
Merci
dans son Cécilia merveilleux
d'avoir
potager.
De m'accueillir.
J'aime de temps en temps faire place aux gens qui ne sont pas célèbres, qui ne sont pas des jardiniers célèbres, mais qui font aussi du très bon travail. D'ailleurs, Manuel Pluvina, j'irai te rendre visite, ça m'intéresse beaucoup.
J'attends avec joie tous ceux qui ont envie de venir en Dordogne, venir nous voir.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Serge.
Eh bien, nous allons quitter ces paysages enchanteurs pour le terrain aride de la politique. Nicolas B, vous êtes tête de liste MNR pour les élections européennes en région parisienne.
Oui, c'est
exact. Je voudrais vous demander quelque chose, c'est d'essayer de me donner envie d'aller voter.
En effet, c'est parce que c'est vraiment la bonne question, puisque ces élections
européenne, tout a été fait pour désintéresser les Français de ce scrutin. Tout a été fait d'une façon assez organisée et volontaire par les partis politiques institutionnels et par le pouvoir en place. D'une part, en organisant un mode de scrutin qui fait que ces élections ne sont plus ni un enjeu régional ni un enjeu national, en découpant la France en 7 circonscriptions qui ne correspondent à, qui sont totalement artificielles, qui ne correspondent à aucune réalité, ni géographique, puisque ce sont des regroupements d'agents administratifs, ni historiques, ni politiques. Ensuite, deuxième raison qui fait que, assez naturellement, les Français se sont désintéressés de ces élections européennes, ce qu'on appelle les grands partis politiques ont investi, ont choisi des têtes de liste pour chacune de ces grandes régions qui sont à la fois peu connues, les leaders politiques les plus connus et bénéficiant de la plus forte notoriété ne se sont pas beaucoup investis dans la campagne, et les têtes de liste choisies, en plus, ne sont pas rassembleuses, ne sont même pas rassembleuses de leur propre camp. J'en veux pour exemple, en Ile-de-France, la candidature de Patrick Gobert, président de la LICRA, comme tête de liste de l'UMP.
Qui ne fait d'ailleurs pas apparaître sur ses documents électoraux qu'il est président de la LICRA. Il dit président d'une association internationale de lutte contre les discriminations. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. C'est curieux, on dirait qu'il n'est pas très fier de ça. Pourtant, il a tout lieu d'être fier d'être président de la LICRA. Je trouve ça curieux.
L'UMP, d'ailleurs, n'a même pas mis ni son nom ni sa photo sur les affiches électorales.
C'est bizarre.
Je ne vois pas comment Patrick Gobert pourrait rassembler les électeurs de l'UMP alors que il n'est connu que pour agir de concert avec la gauche et l'extrême gauche et absolument pas pour défendre des idées et des valeurs de droite. Enfin, troisième raison qui évidemment pousse les gens à ne pas s'intéresser à ces élections européennes, c'est que la question de la construction européenne a toujours été traitée en France depuis maintenant longtemps sous l'angle exclusivement institutionnel. C'est-à-dire de savoir quelle était l'organisation institutionnelle de l'Europe, et avec cette question, l'Europe comment, avant de poser la question, l'Europe pourquoi. Et nous, MNR, si vous permettez, nous répondons à cette question, nous essayons en tout cas d'y répondre, d'apporter nos solutions. Il faut en effet une construction européenne, parce que les enjeux de demain l'exigent, que l'Europe, que les nations européennes agissent de concert sur un certain nombre de sujets essentiels. Mais il faut évidemment poser les bonnes questions, c'est-à-dire quelle est la stratégie industrielle de l'Europe, par exemple, quelle est la stratégie militaire de l'Europe, quelles sont comment l'Europe agit sur le plan diplomatique, etc., etc. Et nous, au MNR, nous proposons une Europe à la fois européenne, c'est-à-dire européenne à tout point de vue, et notamment qui refuse l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne parce que c'est un pays d'Asie qui n'a rien à faire en Europe et qui, même si on peut avoir un partenariat privilégié sur le plan économique avec la Turquie, ce n'est pas un pays européen. Une Europe indépendante, indépendante notamment des États-Unis. Nous devons nous libérer de la tutelle américaine sur le plan militaire, encore une alliance militaire européenne. Nous devons faire de l'euro une monnaie de change et de réserve pour rivaliser avec le dollar sur le plan économique. Et enfin, une Europe puissante, capable de permettre à notre civilisation européenne de rayonner de nouveau sur le monde.
Et vous n'avez pas l'impression quand même que, d'une certaine manière, involontairement ou volontairement, participer à ces élections, c'est cautionner une Europe qui est une Europe de mafieux, quoi, tout simplement. C'est de mafia administrative où les décisions sont prises en dehors dans un contexte complètement surréaliste. Il faut être allé là-bas pour voir comment ça se passe. Le Parlement est sans puissance. La Commission décide de tout souverainement sans que personne ne comprenne ce qui se passe. Il n'y a pas de projet global. Il n'y a aucune, puisqu'on se vante d'être en démocratie, il n'y a aucun contenu démocratique dans le fonctionnement des institutions européennes. Alors on en vient à se demander si le seul fait de participer à ces élections, c'est pas une façon de se rendre complice d'une formidable arnaque qui est l'arnaque mondialiste, où on vous dit devenez européen, les choses iront beaucoup mieux, alors qu'on n'est pas capable de gérer les choses au niveau national. Je vois vraiment pas comment on pourrait les gérer au niveau européen et à fortiori au niveau mondial. Ça vous gêne pas cette...
Vous critiquez très justement l'Europe de Bruxelles, qui en fait s'occupe de tout et n'importe quoi, y compris des cages pour poules pondeuses, et tatillonne, ajoute la réglementation à la réglementation, des tracasseries administratives à d'autres tracasseries administratives. Mais encore une fois, l'Europe, elle sera ce que nous en ferons. Et la construction européenne est indispensable parce qu'il faut que l'Europe et les nations européennes qui doivent rester souveraines, il s'agit d'une organisation de type confédéral, c'est ce que nous proposons, et
s'agit pas évidemment de fédérer durablement, mais simplement de déléguer un certain nombre de souverainetés des nations pour agir plus efficacement. Je pense notamment à la montée de l'islam. Il faut que l'Europe européenne et chrétienne soit capable de s'opposer aux menées islamistes. Et pour cela, il faut évidemment que les pays européens agissent de concert. Et c'est ce que nous souhaitons. Donc il ne s'agit pas bien évidemment de cautionner sous quelque forme que ce soit l'Europe de Bruxelles, mais de proposer une véritable alternative, une autre construction européenne, mais et pas de rester exclusivement dans l'éternel débat entre les souverainistes un peu frileux qui refusent toute construction européenne d'un côté et les mondialistes européistes qui prônent l'Europe de Bruxelles qui a effectivement a montré à quel point elle était néfaste pour les nations.
Quand le MNR décide de présenter des listes aux européennes, bon, je vais certainement pas vous faire plaisir en disant ça, mais il y a quand même assez peu de chances qu'il y ait des élus.
Oui, absolument.
Quel est le sens de cette démarche alors, qui est une démarche, c'est simplement une démarche de témoignage, de présence, de maintien.
Le MNR a défini sa stratégie qui est de tenir et de durer aujourd'hui pour gagner demain. Quand je dis demain, ça peut être dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Il s'agit de tenir et de durer parce qu'il faut qu'émerge en France, et en Europe aussi, mais là je parle plutôt de la France, une vraie droite qui ne soit pas centriste comme les UMP, l'UDF, qui ne soit pas extrémiste comme le Front National.
De moins en moins. Le Front National, ouais, franchement, extrémiste.
Oui, parce qu'il est typiquement dans la tradition de l'extrême droite d'agiter des idées un peu dans tous les sens. Je pense à l'affaire du voile islamique où Le Pen se prononce pour. Ensuite, il revient récemment sur le mariage homosexuel. Pareil, il explique que ce n'est pas une affaire d'État, alors que c'est une affaire absolument centrale. Ensuite, un petit démenti pour détendre l'atmosphère. Ça, c'est de la stratégie de communication très classique.
Ouais, on peut dire aussi que c'est faire crédit de l'intelligence à des gens qui ne le méritent pas, parce que le discours sur le mariage des homos, il est évident que Le Pen a fait un coup de deuxième degré appuyé. Et comme il tombe sur des crétins, le deuxième degré, ils n'en ont jamais entendu parler. Alors les mecs du Monde font leur titre avec Le Pen bénit le mariage homosexuel, ce qui est de la crapule. Crapulerie intellectuelle, pas autre chose, ajouter, ainsi c'est de la crapulerie et de la sottise. Le fond du. Évidemment que Le Pen est pour le mariage homosexuel, ou alors c'est le monde à l'envers, j'y comprends plus rien.
Mais vous avez remarqué qu'il a dit surtout que c'était pas une affaire d'État. C'est-à-dire qu'il a effectivement.
Oui, moi je suis convaincu que c'est pas une affaire d'État.
La question sous non, un peu de façon.
Mais ça mérite ça, ça mérite.
Oui, sans doute, mais ça.
Un éclat de rire. C'est tellement grotesque.
Ça nécessite aussi de s'opposer, de dire que notre attachement à l'institution du mariage et de la protéger. Parce qu'aujourd'hui, elle est gravement menacée.
Ouais, ça, c'est clairement la position du MNR.
On ne peut pas simplement dire « Ah oui, c'est pas une affaire d'État, j'en ai rien à faire, je continue ma croisière avec ma fille et Golnisch entre Avignon et Chalon-sur-Saône parce que les élections européennes n'intéressent personne. » Enfin, c'est pas une attitude responsable. Regardez, pendant la campagne des élections régionales, Le Pen a fait toute la campagne, non pas en parlant de politique, mais uniquement en faisant du barouf médiatique autour de l'affaire de sa domiciliation en PACA. D'ailleurs, il a jeté l'éponge au final alors qu'il aurait parfaitement pu être candidat. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a fait, pardon, cette fois-ci, il a fait la campagne européenne sur le conflit qu'il oppose à Mme Stirbois et M. Bompard.
Vous n'avez pas l'impression d'accréditer quand même là ce que dit Le Pen d'ailleurs. Il dit mais toutes les candidatures du MNR, de Pasqua, de Villiers, de tout ça, c'est des candidatures parasites pour bloquer la manifestation du sentiment des Français qui veulent défendre vraiment la France et qui vont se s'éparpiller. Alors il va y avoir des petits scores de 0,8%, 1%, 1,5%. Résultat, il n'y aura pas d'élus nationaux, ou très peu, et résultat, ces voix partiront. Alors, Le Pen dit ça, c'est son jeu de le dire, mais là, l'attitude que vous avez en ce moment, ça fait un peu penser à ça, c'est-à-dire que vous focalisez votre attaque contre Le Pen et le Front National.
On pourrait parler tout à l'heure de Patrick Gobert, on pourrait parler de la gauche, oui, qui traite la question européenne.
J'aimerais autant,
toujours
si vous voulez vraiment dire du mal de quelqu'un, dites plutôt du mal de Gobert.
Mais vous savez, nous, on n'a aucun complexe, et le fait que nous ayons clairement rompu avec le Front National, le fait que nous les traitons comme des adversaires ou des concurrents comme les autres. Moi, j'ai pas de complexe, excusez-moi, à critiquer aussi bien le PS qui traite la question européenne par le petit bout de la lorgnette en parlant uniquement d'Europe sociale et entendez par sociale la cistana, etc., la déresponsabilisation, l'UMP qui n'est pas de droite et le Front National qui se moque du monde.
Parce qu'il faut quand même
Et moi, je n'ai pas de complexe, excusez-moi, précisément sur la question que vous m'avez posée, j'ai pas de complexe à empêcher que Madame Le Pen, fille, ou Monsieur Dubois soit député européen, parce que je me moque éperdument de savoir s'ils le seront ou pas.
Le problème,
et
c'est de savoir si eux
ne défendront pas les idées et les valeurs auxquelles je suis attaché. Donc ça m'intéresse pas.
La question que je pose, c'est pas celle-là. La question que je pose, c'est celle des militants, enfin des adhérents, des sympathisants. Quand vous avez un groupe de... Parce que vous dites que vous traitez le Front National comme les autres. Bon, c'est votre droit, évidemment, c'est une attitude politique parfaitement défendable. Mais les adhérents, les militants, les sympathisants de la droite nationale, ils globalisent, ils appartiennent à la droite nationale. Le conflit FN-MNR, ils s'en foutent comme de leur première culotte. Et ce qu'ils veulent, c'est... Ce qu'ils voient, c'est qu'au moins, s'il y a un désaccord... stratégique, tactique, entre les personnes ou entre Maigret entre le MNR et le Front National. Bon, c'est une chose qui regarde les états-majors, mais à la base, vous pouvez pas dire aux militants du FN que vous allez les traiter comme vous traitez les socialistes ou les militants UMP. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Il y a une communauté de valeurs là qui est...
Mais les militants ou les adhérents du Front National, il y en a bien entendu parmi eux qui sont sincères, comme il y en a d'ailleurs à l'UMP. Je vous le signale au passage. Moi, je traite les partis politiques. Et les candidats, ceux du Front National aussi, il faudrait qu'ils se réveillent, mais les candidats et les partis politiques qui se présentent, moi je les traite en effet sur le même plan. Nous n'avons aucun complexe. Moi je vous ai montré tout à l'heure justement les différences significatives qui existaient entre le FN et le MNR, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons aucun lien avec le Front National.
Non, ça c'est assez clair.
Non, mais avec lui nous avons totalement rompu, et... les adhérents du MNR non plus ne sont pas intéressés par ça. Vous pouvez sonder les reins et les cœurs et penser que les adhérents du MNR sont tous navrés de cette situation de conflit entre le Jean-Marie Le Pen et Benoît Mélenchon. Aujourd'hui, la situation est très claire. Il y a deux partis qui sont totalement distincts, qui ne sont pas au même endroit sur l'échiquier politique, qui ne défendent pas les mêmes idées sur un certain nombre de sujets importants. Et par conséquent, nous avons une totale autonomie et une totale liberté d'action sans nous occuper de savoir ce que va devenir le Front National, qui est en train de péricliter et devenir le
ça, on peut pas, vous savez, moi j'ai assisté à la naissance du Front National en 72, ça fait donc maintenant 32 ans, et ça fait 32 ans que j'entends que le Front National périclite. Alors, je suis quand même pas trop inquiet pour sa survie.
Mais quand je dis qu'il périclite, il reste à un niveau élevé sur le plan électoral, mais tout le monde le connaît, y compris des cadres éminents du FN comme M. Bompard, Mme Thierbois, M. Anthony, qui s'aperçoivent aujourd'hui que le Front National est concentré autour d'un petit clan familial qui défend des intérêts et ne défend plus les idées.
Je crois que ce qui me frappe dans ce discours, c'est que la situation du Front National à l'heure actuelle, c'est exactement la situation de tous les partis politiques en France. Hein. L'UMP se bouffe la gueule entre Sarkozy et Juppé. Au PS, c'est pour savoir le premier qui va tomber dans l'escalier pour pas se présenter au présidentiel. Le PC, bon, le PC, c'est n'existe même plus, c'est même pas la peine d'en parler. Chez les gauchards, c'est pareil. Mais alors, d'un seul coup, le Front National, ça devient un truc vraiment. On a l'impression que parce qu'il y a un différent. Entre Anthony et Le Pen ou entre Bompard et Le Pen, ça devient un cataclysme qui va balayer, une espèce d'ouragan qui va détruire le Front National ou qui va détruire Bompard et Anthony. Moi, je crois pas du tout, je vois pas du tout. Je ça. Dans tout parti politique, il y a des affrontements, il y a des discussions, il y a des confrontations de projets, de tactiques. Bon, et je pense que d'ailleurs, on a vu au MNR la même chose, hein, le Galou a claqué la porte pratiquement. Enfin, il l'a fait courtoisement, gentiment. Mais bon, on sait bien, dans tous les partis, c'est normal. Non, autrement, ce n'est pas des partis des politiques.
Conflits, qu'il y ait des conflits dans tous les partis, dans toutes les organisations humaines, d'une manière générale, c'est exact. Le Front National est effectivement touché comme les autres. Mais encore une fois, là n'est pas la question.
Non, c'est bien clair. C'est pas du tout là-dessus que je voulais vous
valider totalement. Est-ce que je disais tout à l'heure, à savoir que le Front National est en effet un parti comme les autres.
Pas dans son fonctionnement, un tout parti fonctionne de la même manière, y compris l'extrême gauche, sauf peut-être les lambertistes qui, à mon avis, sont plus une secte qu'un parti politique, mais à part ça, je ne vois pas ce qu'on peut imaginer comme autre fonctionnement de toute société humaine que les antagonismes, les affrontements, c'est ça qui fait le mouvement. Et la dernière question, celle à laquelle ne répondent jamais les candidats, où mettez-vous la barre ?
La barre du score.
Oui.
Écoutez, puisqu'on parle par circonscription, puisque maintenant c'est comme en ce qui concerne l'Île-de-France, si on fait un score semblable à celui des régionales, je considère que c'est dans la logique des choses. Évidemment, c'est pas très satisfaisant, c'est pas extraordinaire comme score, dans l'ordre de 20 ou 2%, mais ça permet de poser quand même les bases d'un mouvement politique qui aura sa place à prendre dans l'avenir, notamment parce que je crois qu'il y aura une recomposition de l'ensemble de la droite, que ce soit l'UMP ou le Front National. Ces partis-là vivent une crise majeure. Je pense qu'il y aura une recomposition, il y aura la place parce que tout simplement il y a une aspiration des Français, de 25 ou 30% des Français, qui espèrent voir émerger une vraie droite en France, tout simplement.
Et c'est alors, et après la dernière question, il y a toujours une question de plus qui n'est jamais, enfin qui est toujours posée, c'est la règle, c'est celle du financement. Parce que vous avez affronté les régionales, vous n'avez pas été remboursé puisque vous n'avez pas les. Là, vous vous engagez dans les européennes, ça coûte beaucoup d'argent.
On ne sera pas remboursé non plus,
probablement pas remboursé non plus. Donc, d'autre part, on sait que quand même les différentes expériences précédentes du MNR ont coûté très très cher à ce mouvement et à certains de ses fournisseurs. Mais là, qu'est-ce qui paye? C'est vous-même qui financez
les militants. Alors, je peux vous expliquer dans le détail. Je suis pas sûr que ça intéresse tous les
électeurs. Non, c'est une réponse globale.
Très rapidement, les élections régionales, nous les avons totalement autofinancées en faisant une campagne minimale, c'est-à-dire en imprimant les bulletins de vote et les professions de foi. Voilà. Nous avons mobilisé l'ensemble de nos adhérents, nos militants, nos donateurs, pour qu'ils se sont montrés généreux. Cela nous a permis de rassembler suffisamment d'argent pour être présents dans 13 régions et d'être présents auprès de 75% des Français. Pour les élections européennes, nous avons procédé exactement de la même façon, dans un délai plus court, avec des donateurs qui avaient déjà beaucoup donné, à qui on ne pouvait pas demander autant. Et du coup, nous avons fait une campagne plus modeste dans son coût, puisque nous avons imprimé des documents de petite taille. Les électeurs pourront le voir en recevant leurs enveloppes. Nous avons des professions de foi de petit format, des bulletins de vote de petit format, ce qui nous permet de réduire très fortement les coûts, mais d'être présent à ces élections européennes et de faire passer notre message.
Nicolas Bell, je vous remercie. Non, on n'a pas le temps. Non, ma cocotte, on n'a vraiment pas le temps.
Mais c'est sous quel nom apparaissez-vous?
Alors, les listes du MNR, c'est leur intitulé est Europe oui, Turquie non, pour une Europe indépendante et puissante.
Voilà. Je vous remercie, Nicolas Bell. Je souhaite réellement que vous fassiez quelque chose dans la direction que vous avez choisie, la vie politique que vous avez choisie, parce que vous êtes quelqu'un de courageux, d'intelligent, de déterminé, de travailleur, vous avez du caractère, donc toutes les qualités pour faire une bonne carrière.
Je vous remercie. Je suis pas sûr que je sois
fait
de cet éloge.
Si, vous êtes tout à fait. On se connaît quand même depuis assez longtemps. Je vais terminer quand même par la vacherie d'usage. Vous savez, les bons pilotes, il faut aussi qu'ils choisissent la bonne écurie.
Oui, mais c'est le problème de beaucoup de gens qui font de la politique, non pas en défendant des convictions, mais en allant à la gamelle. Et je dis un mot d'ailleurs sur le financement des partis, puisque justement nous avons autofinancé nos listes, contrairement à ce que certains ont prétendu, qu'on aurait bénéficié de soutien de l'UMP, etc. Et le MNR, à la différence d'autres, n'a bénéficié ni de l'argent de la secte Moon, ni de l'argent de Saddam Hussein.
Ah, alors, l'autre vacherie, c'est vous qui gagnez, au poker des vacheries, vous avez placé la dernière, je suis obligé de le taire. Merci, bonne soirée. Alors je reçois d'autres jeunes gens qui n'appartiennent ni au MNR ni au Front National, d'ailleurs c'est pas le sujet, qui appartiennent au mouvement identitaire, qui s'est rendu célèbre récemment en organisant des soupes populaires, dont le crime était naturellement de servir des produits à base de cochon, ce qui est évidemment une horreur totale. Ça leur a valu d'être dénoncé par M. Ondelat comme raciste, parce que maintenant, si vous offrez du cochon à des pauvres, vous êtes forcément raciste, il faut le savoir. Offrez-leur plutôt la carte farcie, vous aurez moins de soucis. Et ça a débouché sur tout simplement un passage à tabac en règle, dont Christophe a été une des victimes, en compagnie élégante d'ailleurs de Mme Marie-Thérèse Erlange, qui, je m'empresse de le préciser, n'est pas militante au mouvement identitaire, mais qui est une élue parisienne, qui était là le jour où l'extrême-gauche vous est tombée sur le poil. Qu'est-ce qui s'est passé, Christophe?
Alors voilà, samedi, alors que Noël Mamère célébrait son simulacre de mariage à Bègles, les militants identitaires ont manifesté sur place à Bègles leur opposition au mariage. Et également à Paris, il y avait une action, un tractage sur le marché du cours de Vincennes. Donc une petite quinzaine de militants avec de nombreuses femmes, des personnes âgées, ont tracté contre le mariage homosexuel. Donc un tractage où nous avons des très bonnes réactions des gens, où tous les commerçants à haute voix nous font leurs compliments. Voilà.
Donc il y a quelqu'un qui vous a fait un compliment marquant.
Voilà.
On a eu
le compliment marquant de voir une trentaine de nervis d'extrême gauche, un véritable commando, qui a...
L'expression nervi d'extrême gauche, ça me surprend parce que c'est, le principe, c'est quand même nervi d'extrême droite et intellectuel de gauche. Alors, si vous commencez à mélanger les catégories, on va pas s'en sortir.
Voilà. Non, ouais, c'est un retournement des genres qu'on a en ce moment, voilà. Et donc, on a pu, voilà, 40 miliciens d'extrême gauche. Voilà, qui sont arrivés cagoulés, avec chaîne de vélo, gaz lacrymogène, point américain, toute la tiraille, pour justement
s'en prendre physiquement,
voilà, nous apprendre leur vision de la démocratie sur les quelques militants identitaires qui étaient là, et notamment sur Madame Herbranche, qui a malheureusement été prise pour une identitaire.
Ça doit être la première fois que ça lui arrive. Elle a dû être vraiment surprise. Remarquez, elle a reçu un coup de casque, je crois.
Oui, voilà.
Au moins, elle aura pu vérifier sur le terrain la validité des thèses qu'elle défend depuis des années, puisque moi je la connais depuis. Je l'ai connue il y a 30 ans. Quand elle débutait en politique, elle était vraiment pas d'extrême droite. On peut pas dire ça. C'était vraiment une militante de la démocratie bien organisée, sérieuse, etc. Chiraco-dominatienne ou dominacoto-chiracienne. Je ne sais pas comment il faut dire. Et là, elle a vu la démocratie en mouvement.
Voilà, exactement.
Vous vous êtes remis quand même ?
Oui, très bien. Bah, l'affaire suit son cours. Donc, suite à ça, la police était...
Il y a eu des arrestations. Hein.
Voilà, il y a eu 14 arrestations parce qu'il faut savoir que Bertrand Delanoë se rendait sur ce marché peu de temps après nous. Donc, l'action était très ciblée. Et donc, ça a permis de pouvoir en arrêter 14.
Que c'est pas Bertrand Delanoë qui les a arrêtés quand même.
Non, c'est les policiers en les prenant à mon avis pour des vilains gens d'extrême droite, vu que c'est, faut savoir quand même que ces gens sont restés dans les années 80, ils s'habillent encore avec des grosses chaussures, des patchs skinhead et voilà.
Il doit y avoir des flics qui se sont fait sérieusement tirer les oreilles. Mais on vous a expliqué qu'il faut pas arrêter les mecs de gauche, mais vous comprenez rien. Le chef, vous avez des têtes d'extrême droite.
Exactement.
Oui, mais il faut se renseigner, mon vieux, qu'est-ce que je vous dise.
Exactement. Hein, les policiers m'ont dit c'est les skinheads qui vont attaquer, oui, les skinheads, voilà, les vilains d'extrême droite.
Ouais. Vous n'avez pas tellement une tête de militant d'extrême gauche, je veux dire, c'est pas très crédible. Merci Christophe, en tout cas, et bravo pour votre courage et votre détermination. Odile Bonivard, vous êtes l'organisatrice de la soupe populaire au cochon.
Oui.
Non, pas servie au cochon, mais servie avec du cochon.
Non, servie avec du cochon dedans. Et
ça, c'est un crime quand même.
Oui, c'est-à-dire que nous, on ne pensait pas. Nous, on s'est dit, on va faire plaisir à nos amis. On va remettre, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire à cette antenne, on va remettre le porc à l'honneur un petit peu, tout au moins en région parisienne, sur Paris. Et puis, il s'avère que ça, oui, c'est devenu un crime. Et
alors, qu'est-ce qui a dit qu'il fallait aller vous casser la gueule? Il y a eu un mot d'ordre qui est passé dans une radio.
Absolument. Donc, ça s'est passé sur les antennes d'RTL, donc dans une émission dont j'ai oublié le nom, mais ça s'appelle, je crois, Pour un autre monde, un truc comme ça. Et effectivement, ce sont des propos qui ont été tenus, ce sont des propos qui ont été tenus par Monsieur Christophe Ondelat, donc le présentateur de l'émission.
Pourtant, c'est un démocrate, le genre.
Oui, il est bien connu comme ça. Et donc, qui a expliqué qu'en écoutant mes propos, donc qui ont été tenus une heure plus tôt, il a dit, en écoutant donc Madame Bonivard, il y a vraiment des coups de pied au cul qui se perdent.
Et après, ça, c'est donc, pas bien méchant.
C'est
une dame.
Oui, déjà.
Ça ne fait pas, mais enfin bon. Ça, c'est le genre de choses que je pourrais dire, oui.
Bon, oui, mais enfin bon. Et puis ensuite, on a eu le droit donc à Monsieur Claude Cabanne, donc de l'Humanité. Monsieur
un grand démocrate, lui aussi.
Oui, bien connu. Monsieur Guy Birenbaum, qui, eux, par contre, sont allés un petit peu plus loin, puisqu'ils n'ont pas hésité à dire à l'antenne d'RTL, c'est à vomir, il faut aller leur casser la gueule, on va aller leur casser la gueule.
Ah, mais c'est bien, donc déjà... c'était signé, alors.
Absolument. Et sauf donc que sur le marché du cours de Vincennes, on est un tout petit échantillon de ce qu'ils nous ont promis. Et voilà, donc j'espère que ça n'ira pas plus loin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ben on est déterminé, on est motivé, on a des convictions, hein. Et puis surtout on a des amis qui nous attendent demain soir, hein. On a des amis qui sont dans la rue qui nous attendent avec nos casse-croûtes au jambon. Donc on sera là, on sera présent exactement comme d'habitude, de façon à venir leur dire bonjour et à leur apporter à manger. Voilà.
Et Marie, vous êtes serveuse au restaurant du cœur, si j'ose dire.
C'est à peu près ça en fait. Exactement, ça fait maintenant 6 mois qu'on organise cette soupe à la gare de l'Est. Jusque maintenant, faut vraiment savoir que tout se passait pour le mieux du monde. Les gens qu'on servait étaient complètement au courant de nos idées et il y avait un véritable dialogue qui s'était instauré entre eux et nous. C'était d'une grande convivialité. Et en fait, on se retrouvait avec eux, en fait, comme avec des copains avec qui on allait manger au restaurant. C'était vraiment très sympathique. Ça ne gênait personne. On était entre nous, on était entre amis et tout se déroulait bien. Et puis, on a commencé à se faire connaître au niveau de la presse. Et après cette médiatisation, et ben on a commencé à avoir des visites de nos amis gauchistes.
Et vous allez y aller quand même, vous continuez quand même?
Bien sûr.
Ouais, bien sûr.
Bien sûr.
Avec un air de dire, mais comment on peut poser une question aussi idiote? Il est fou, ce vieux.
Vous savez, on a des gens qui nous attendent, à qui on sert de la nourriture depuis 6 mois. Je vois pas pourquoi on arrêterait.
C'est bien. Faut peut-être supprimer le cochon. Faut leur donner de la soupe au vin.
Et encore une fois, c'est tout à notre avantage de passer pour des victimes et de voir que bah, les vilains qui empêchent qui nous empêchent d'aider les pauvres, et ben voilà, c'est eux en face, c'est l'extrême gauche.
Pardonnez-moi de vous le dire, mais il faut que vous fassiez un petit peu de formation politique, parce que justement, depuis très très longtemps, l'extrême gauche et le Parti communiste sont opposés à toute opération de charité publique, parce que ça les prive de clientèle. Et c'est une vieille histoire qui m'a été racontée par un ami qui, dans son jeune temps, quand il était aux Jeunesses communistes, avait voulu organiser pour les enfants de Montmartre, pour les poulebots donc de Montmartre, des vacances à la mer, parce que les gosses n'avaient jamais vu la mer. Et donc il a pris ses camarades des jeunesses communistes et ils ont commencé à faire ça. Et il s'est fait convoquer par le secrétaire de cellule qui lui a dit, mais dis donc, espèce de con, tu sais ce que t'es en train de faire, t'es en train de nous faire perdre toute notre base. Parce que les gosses que tu vas emmener là, ils vont être emmenés avec une quête que tu fais auprès des commerçants de Montmartre pour leur offrir l'autocar et la journée à la mer au Touquet. Quand ils vont rentrer, ils vont avoir dans la tête, d'abord, qu'il y a des gens bien qui leur ont payé un voyage et que donc la lutte des classes, c'est une connerie. Et deuxièmement, que ces gens bien, ce sont les commerçants, ceux qu'on combat justement. Donc, tu me fais le plaisir d'arrêter ces histoires. Et il a été obligé d'arrêter son projet d'emmener les enfants à la mer. Donc, ne croyez pas du tout que l'extrême gauche et la gauche communiste... et d'ailleurs la gauche socialiste aussi sont partisans de la suppression, l'extinction du paupérisme après 10h du soir, parce que le paupérisme c'est leur fonds de commerce, ils en vendent, ils en bouffent, et c'est ça qui leur permet d'avoir leur prébende. Donc quand vous faites disparaître des pauvres, ou quand vous aidez les pauvres, surtout si en plus vous revendiquez d'une idéologie nationaliste ou identitaire, alors là vous devenez un ennemi extrêmement redoutable. Voilà, c'est tout le problème.
Ça, il faut dire qu'on s'en est rendu compte. Hein.
Oui, parce que pour qu'ils vous envoient 30 types casqués et tout, il faut vraiment qu'ils considèrent que là, il y a un gros problème qu'il faut régler rapidement.
C'est-à-dire qu'on
ça c'est négocié en haut lieu, c'est pas une initiative privée.
Ouais.
Guillaume Luit.
Oui, Serge, ça vient effectivement de haut lieu. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la ville de Paris est dirigée par Bertrand Delanoë, et que Bertrand Delanoë a, dans son équipe municipale, les élus verts de Paris. Et les élus verts de Paris, c'est pas des amis de la nature, des petits oiseaux et des papillons. Ce sont des militants politiques d'extrême gauche de longue date. Et l'un d'entre eux, Sylvain Garel, que connaissent tous nos amis, tous les auditeurs de Radio Courtoisie le connaissent, en tout cas en mal par l'absurde, puisque c'est lui qui est derrière les demandes d'interdiction de la fête de l'identité, c'est lui qui est à l'origine de l'occupation de Saint-Nicolas du Chardonnay, c'est lui qui est à l'origine de la condamnation du professeur Claude Rousseau et de l'abbé de Tannoirne, et ce Sylvain Garel, dont le métier, de façon très étonnante, est d'être critique de cinéma, qui se trouvait à Cannes lorsque, là aussi, des militants d'extrême-gauche, déguisés en intermittents du spectacle, ont agressé des cinéastes anglais lors d'une projection. Ce Sylvain Garel est, et c'est écrit dans Le Parisien d'hier, Sylvain Garel est aujourd'hui collaborateur de nombreuses revues. Il n'a gardé qu'une seule chronique dans le journal France-Québec et dans celui de Ralph Rond, dont il est l'un des collaborateurs. Et je me demande aujourd'hui si dans tout ce climat parisien, qui dépasse de loin les identitaires, sur cette espèce de façon qu'a Delanoë et ses élus verts de quadriller la ville et de mettre en place un véritable terrorisme armé, ce que le procureur de la République de Paris attend pour instruire un procès en constitution de milices armées, de groupes de combat envers ces militants d'extrême gauche qui multiplient les méfaits, et probablement de chercher en au-dessus qui tire les ficelles. Alors je n'accuse pas Sylvain Garel, mais je demande à la police, à la justice de faire son
métier. À nos auditeurs, vous êtes quand même un peu à l'origine du mouvement identitaire.
Un petit peu, oui.
Quel sens ça a vraiment quelle est la différence au fond essentielle entre ce qu'on a appelé les mouvements nationalistes et le mouvement identitaire?
Je pense que Votre invité précédent, Nicolas Bay, d'une certaine façon, nous a largement préparé le terrain, c'est-à-dire que nous nous sommes détachés de la chose électorale. Nous pensons qu'il faut être présent au plus près des préoccupations des Français et que ces préoccupations, les préoccupations des gens de notre pays, ce sont des préoccupations, hélas, aujourd'hui très très quotidiennes et très immédiates. C'est se loger, c'est trouver du boulot, le garder quand on a 50 ans, c'est aider ses enfants à réussir des études et c'est sortir très souvent des ghettos dans lesquels on se retrouve enfermé. Et ça, c'est la plus belle des choses. Et toute notre initiative identitaire se fait à travers, là on vous a parlé de solidarité dans les rues de Paris, cette campagne contre le mariage homosexuel qui pour nous n'est effectivement pas une palinodie, mais également par la constitution à travers toute la France d'un nombre d'associations exponentielles qui défendent des traditions. On vient d'ouvrir 2 locaux actuellement en province. L'un de ces locaux, on y est en train d'organiser des cours de français, des dictées. Dans l'autre, on met en place un système de soirées de contes. Voilà, on est en train tout simplement d'essayer non pas de parler d'un combat culturel, mais de pratiquer au quotidien un combat social, culturel, bref, un combat identitaire, puisque
c'est du Gramsci ce que vous faites.
C'est même pas parce qu'on n'en parle pas, on le fait. Voilà, on est simplement dans le présent, dans l'action permanente, non pas dans l'activisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, bah là, on parle de cette façon qu'a l'extrême gauche à Paris de vouloir considérer cette ville comme son territoire. Nous, notre vocation, c'est effectivement d'être au plus près des préoccupations des gens de notre peuple, de nos compatriotes. Et franchement, je pense que l'extrême gauche ne nous intéresse ni de près ni de loin. Il est évident que si elle passe son temps à venir nous rendre visite, il y a bien un moment où il faudra qu'on s'intéresse à son cas. Mais je suis certain, et pour avoir dans le passé été confronté à une certaine loi de 1936 qui prône et qui prévoit la dissolution des groupes de combat et des milices armées, j'espère très sincèrement, d'ailleurs une députée UMP en ayant été victime, que l'État va enfin s'intéresser de près à la CNT, à Ralfranc, à ces organisations dont on ne connaît ni les véritables chefs, ni les véritables responsables, mais qu'enfin on va ouvrir une véritable enquête pour mettre un terme à cette chenille parisienne.
Merci Guillaume. Odile Bonnivard, vous nous donnez une adresse si on veut vous aider.
Oui, alors donc il y a déjà une chose que je voulais faire, c'est faire un appel donc à tous les amateurs de cochons, on va les appeler comme ça, donc pour venir nous aider, nous soutenir, donc être avec nous déjà, on a besoin de présence physique demain, hein, donc demain rendez-vous à tous nos amis, rendez-vous demain à 20h30, gare de l'Est, donc en bas de la rue d'Alsace, de façon à ce qu'on soit le
en
plus nombreux possible.
En bas de l'escalier de la rue d'Alsace.
Absolument. Un petit peu plus bas, même en bas de la rue d'Alsace, de façon à ce qu'on soit le plus nombreux possible. Sinon, les soutiens, vous pouvez les envoyer, je vais répéter notre adresse postale. Donc, bloc identitaire LIF, pour Ligue identitaire francilienne, hein. Donc, bloc identitaire LIF, après, centre PO 170, 23 rue Le Courbe, 75015, Paris.
Répétez, s'il vous plaît.
Alors, donc, bloc identitaire LIF, LIF, centre PO 170, 23 rue Le Courbe, 75015, Paris. Et nous avons une adresse mail qui est donc consacrée à cette action populaire. C'est solidarité, donc solidarité, sans accent sur le « et », @, bloc, tiré, identitaire, .com.
Merci beaucoup. À bientôt.
C'est nous qui vous remercions.
Merci Serge. Nous parler de vos initiatives qui sont vraiment sympathiques.
Alors,
quelques
annonces. Il y a une messe d'action de grâce par l'abbé Pozzetto demain jeudi 10 juin à 19h30 à Saint-Odile, plus une procession du Saint-Sacrement.
Une grâce pour le pèlerinage de Chartres, pour les pèlerins de Chartres.
Merci.
Il fallait le dire, ça.
C'était pas écrit. Qu'on envoie des messages convenables. Vendredi 11 juin, de 15h à 18h30, le docteur Nguyen dédicacera le patinage artistique et d'autres ouvrages. Samedi 12 juin, de 15h à 18h30, Journée spéciale Jacques Perret avec la participation de Jean-Baptiste Chaumeil à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, RER, Saint-Michel, etc. Tout le monde connaît. Une jeune fille de 24 ans cherche une ou deux colocataires sérieuses pour partager un grand appartement à Boulogne-Billancourt, libre immédiatement. Appelez pour renseignement 06 62 19 23 43.
Des colocataires heureux.
Des filles,
ça nous regarde pas.
Des petites filles charmantes. Voilà. Et puis, de nombreux auditeurs vous demandaient de parler du départ de Bernard Lugan comme si c'était une rupture entre vous.
Mais non, je vais pas répéter. Il l'a dit, Lugan, l'autre jour, il n'y a pas aucune rupture. On est amis depuis très longtemps. On a eu un différend il y a deux ans parce que on n'arrivait pas à s'entendre sur les dates des émissions. Donc, on a mis un terme à cette relation. Puis ça a recommencé. Quand on s'est mis d'accord, ça a marché tout de suite. Mais là, j'ai décidé de reprendre mes émissions. Parce que c'est quand même mon émission, et Bernard n'y voit pas du tout d'inconvénient. Au contraire, il voudrait bien avoir sa propre émission, et je crois que beaucoup d'auditeurs sont du même avis. De dire que je l'avais expulsé, ostracisé, enfin tout ça c'est des conneries, il n'y a pas d'autre mot en français, ça s'appelle des conneries. Bon, je voudrais faire remarquer une chose, c'est que dans cette radio, j'ai invité tout à fait au début Jean-Gilles Maliarakis, à qui on a donné ensuite une émission. Puis j'ai invité Reichmann, qui a participé à mon émission, qui a fait des émissions exactement comme Lugan dans le cadre de ma tranche horaire, et on lui a donné une émission, et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui Bernard Lugan, qui a fait plus que la preuve qu'il intéressait les auditeurs de Radio Courtoisie, n'aurait pas son émission, et je vois pas au nom de quoi je serais obligé. Je donne déjà la moitié de mon émission à Amish, une autre moitié de l'émission aux jeunes européens. Je peux pas saucissonner mon émission sans arrêt. Il faut que chacun fasse un effort pour que les auditeurs trouvent les émissions qui les intéressent et qui leur plaisent. Alors, la seule solution, c'est de faire savoir à Radio Courtoisie, tous les amis de Bernard Lugan et tous les auditeurs qui souhaitent continuer à attendre Bernard Lugan, qu'ils le fassent savoir à Radio Courtoisie, car Radio Courtoisie est à la disposition des auditeurs et pas le contraire. Et il faut organiser, je pense, les programmes en fonction des désirs des auditeurs. C'est mon opinion. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de lettres d'auditeurs qui me disent « On ne vous entend plus, revenez, reprenez vos émissions et tout. » J'ai décidé de le faire, bien que ça représente un énorme sacrifice personnel. Eh bien, je trouve quand même incroyable qu'on puisse me tenir rigueur de récupérer ce qui m'appartient, alors que pendant des années et des années, j'ai offert ce qui m'appartient à quelqu'un et que je continue à le faire. Enfin, il faut quand même un peu raison garder dans cette histoire. Donc, je ne suis pas du tout fâché avec Lugan ni avec qui que ce soit, pas du tout. Et simplement, je fais mon émission à partir de la rentrée. Et la semaine prochaine aussi, bonne semaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 9 juin 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 10, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck.